BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Bolt.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs bien sûr dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, c'est toute l'Europe spatiale qui brûle un cierge parce que si tout va bien, et bien dans 3 heures aux alentours de 21h, Ariane 6 devrait faire son premier vol du côté de Kourou en Guyane. Vous savez que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace depuis déjà un an. Jean-Baptiste Huet est à Kourou, on va le retrouver bien sûr dans un instant sur BFM Business. Sinon on a ces chiffres de l'INSEE qui sont tombés il y a une heure qui nous disent qu'en tout cas, avant l'annonce de la dissolution, l'économie française allait bien. Ça allait bien fondamentalement, on verra ça avec Thomas Asportas dans un instant. Après, tout ce qui peut se passer au-delà, c'est évidemment une autre histoire. Avec ça, avec nos experts, on parlera de tout ça bien sûr à 18h30. Avec eux, on parlera aussi de ce sommet de l'OTAN qui vient de débuter du côté de Washington. Donald Trump n'y est pas, mais tout le monde pense très fort à lui. On se demande si l'OTAN sera exactement la même avec ou sans lui, selon qu'il repasse, évidemment, en novembre prochain. Voilà le programme non exhaustif, 18h15. C'est la directrice générale d'Orange, Christelle Edman, qui sera l'invitée d'Edwige Chevrillon. Voilà le programme, nous sommes partis. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc si tout va bien, c'est dans 3 heures qu'Ariane 6 devrait débuter de Kourou son tout premier vol, l'aboutissement de 10 ans de travail pour ce projet. Jean-Baptiste Huet est sur place pour BFM Business.
On est ici en Guyane, à Kourou, au Centre Spatial Guyanais, dans la salle Jupiter. C'est ici que toutes les opérations de contrôle du lanceur vont s'effectuer ce soir. Pour l'instant, tout va bien, tous les paramètres sont au vert, comme disent les professionnels. Il y a eu aussi un petit problème technique d'un capteur, mais ça a été vite résolu. Ce qu'on surveille avec beaucoup d'attention, c'est la météo. Cette période du juillet est en fait la pire pour envoyer des fusées. On a souvent en altitude des vents cisaillants qui peuvent venir modifier la trajectoire du lanceur, et puis ils peuvent se former des orages assez rapidement, donc tout ça est surveillé très attentivement. Il y avait une opération critique qui a été effectuée, c'est le remplissage des réservoirs. Il a fallu remplir les réservoirs de la fusée avec de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. L'oxygène liquide, c'est à moins 150 degrés, l'hydrogène liquide, c'est à moins 250 degrés. Donc ce sont des opérations qui sont critiques, extrêmement tendues. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. La fusée attend maintenant sagement sur son pas de tir. À propos de cette fusée, cette Ariane 6, c'est une version 2 booster. Elle est équipée de 2 propulseurs. Il faut savoir justement que dans quelques mois, il y aura un autre lancement qualificatif pour la version avec 4 propulseurs. On en reparlera. Avant, il faut déjà que celle-ci décolle. Et je peux vous dire sur place que les équipes du Centre National d'Études Spatiales, de l'Agence Spatiale Européenne, les industriels, Ariane Group, Ariane Espace, sont sur les dents. Pas d'autre mot. Il faut que ça réussisse à tout prix. Un échec serait évidemment un signal catastrophique pour l'Europe de spatiale, hein, l'Europe spatiale évidemment. Et puis aussi une catastrophe industrielle. Mais tout va bien se passer. Pour l'instant, tout est au vert.
Et ben, on croise les droits. Jean-Baptiste Huet, donc, à Kourou pour BFM Business. On parlera de tout ça à 18h30 avec Frédéric Simotel. Les enjeux, bien sûr, l'enjeu de souveraineté que constitue l'accès autonome à l'espace. Et puis, on suivra évidemment ce lancement aux alentours de 21h en direct sur BFM Business. Bien sûr, dans Tech & Co. Dans l'actualité, grande question, comme toujours. Comment ça va du côté de l'économie française? Bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Guillaume.
Là, on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture qui nous dit que globalement, alors jusqu'à l'annonce de la dissolution, oui, ça allait bien. Pour ce qui est de la suite, évidemment, c'est une question sans réponse, Thomas. Hein.
Oui, non, ils n'ont pas de boule de cristal à l'INSEE. En revanche, ils peuvent nous dire comment se comportait l'économie française jusqu'à l'annonce de la dissolution. Ils ont sondé, activé leur capteur de l'économie française au mois de mai et au mois de juin. Et ce qu'on voit globalement, c'est que tous les indicateurs sont au vert. La croissance se maintient, l'inflation recule, les ménages regagnent du pouvoir d'achat et consomment davantage, et le chômage se stabilise. Donc la photo est plutôt bonne. Si on regarde la croissance plus précisément, l'INSEE tape sur 1,1% cette année, c'est-à-dire exactement le même taux de croissance que l'an dernier, et même un petit peu plus que les 1% envisagés par Bercy dans le budget. L'INSEE prévoit notamment un troisième trimestre à 0,5% grâce au JO, qui apporterait à eux seuls 0,3 points de croissance. Ce serait ça l'effet JO, 0,3 points de PIB, essentiellement grâce à la vente des billets et des droits audiovisuels. Bonne nouvelle sur la croissance, bonne nouvelle aussi sur l'inflation, qui repasserait sous les 2% d'ici à la fin de l'année. Donc on aurait des salaires qui augmenteraient plus que les prix. Ouais. Donc du pouvoir d'achat qui augmenterait de 1,4%. On n'a plus vu ça depuis un certain temps. Et du coup, une consommation qui repartirait, là aussi on n'a plus vu ça, de 1,3%. Et enfin, bonne nouvelle pour l'emploi qui se tient avec encore 185 000 créations d'emplois cette année. C'est beaucoup moins qu'en 2021-2022 post-Covid, mais c'est suffisant pour stabiliser le taux de chômage autour des 7,5%. Ouais. Aujourd'hui, on est à 7,5, on serait à 7,6 en fin d'année.
Bon, donc ça, c'était la photo juste avant la dissolution. Alors, chiffre qu'a commenté Bruno Le Maire, qui a saisi l'occasion.
Bien sûr.
Pour dire, ben voyez, tout ça, ça valide la politique qu'on mène depuis 7 ans, finalement.
Ben oui, pour le ministre de l'économie, ces chiffres démontrent que sa politique est la bonne, la meilleure possible pour le pays, de la croissance, du pouvoir d'achat et de la création d'emplois. Et il implore donc les futurs responsables, quels qu'ils soient au gouvernement ou à l'Assemblée, de ne pas détruire cette politique. Je le cite, « Revenir en arrière sur la politique de l'offre et la remplacer par une politique de la demande serait une faute irrémédiable. » Mais il est bien conscient aussi qu'il faudra faire des ouvertures à d'autres partis, trouver des compromis. Et Bruno Le Maire donne deux exemples pour améliorer, c'est le mot qu'il emploie, améliorer la politique de l'offre vers plus de justice fiscale. Un, continuer à augmenter la participation et l'actionnariat salarié pour intéresser davantage tout le monde, tous les salariés à la performance de l'entreprise. Et deux, réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net avec une refonte des allègements de charges et un lissage plus progressif.
Voilà donc la photo de l'INSEE qui nous dit jusqu'au 9 juin, en tout cas, tout allait bien. Pour l'instant, tout va bien, finalement.
Ouais.
Et on verra effectivement ce qu'il en sera d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, en France, toujours, les discussions continuent, justement, du côté du nouveau Front Populaire pour désigner son éventuel candidat pour Matignon, pour remplacer Gabriel Attal. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, s'est dit, lui, tout à l'heure, prêt à assumer la fonction, à condition, dit-il, que cela se fasse dans le dialogue avec le nouveau Front Populaire. Fin de citation. 18h05, c'est le grand rendez-vous international des prochaines heures. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Washington. Les 32 membres vont beaucoup parler de l'Ukraine. Avec une question de taille, qu'en restera-t-il si Trump repasse à l'automne prochain? L'Amérique, d'ailleurs, sera-t-elle aussi atlantiste? Alexandra Paget.
40 milliards de dollars, c'est le montant minimum de l'enveloppe que le précédent secrétaire général de l'OTAN a proposé aux États membres de consacrer au soutien de l'Ukraine chaque année. Une déclaration en ce sens est attendue à Washington, mais Kiev risque de ne recevoir qu'une garantie pour 2025. Pour les années suivantes, rien n'est moins sûr. Le prochain rassemblement de l'Alliance se tiendra aux Pays-Bas en juin l'année prochaine, après l'élection présidentielle américaine de novembre. Et celle-ci pourrait être remportée par Donald Trump, qui entretient le flou sur la continuité du soutien américain à l'Ukraine et même sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN. Longtemps premier contributeur direct de l'Alliance, il participe aujourd'hui seulement à hauteur de 16,2% au budget commun, c'est-à-dire autant que l'Allemagne. Mais le candidat républicain à la Maison-Blanche n'en démord pas et évoque régulièrement une sortie véritable ou non de l'OTAN et donc la fin du parapluie américain, notamment pour les pays les plus vulnérables de l'Est, dont l'Ukraine.
L'ombre de Trump qui plane sur ce sommet de l'OTAN qui commence aujourd'hui à Washington. Notez qu'au passage, on va désigner le prochain secrétaire général de l'organisation à cette occasion. Ça sera Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain. Puis on vient en France. Alors cette fois, ça se précise, mais vraiment, le père de Flamanville est bel et bien sur le point. Alors pas de démarrer, mais déjà commencer à produire de la chaleur. C'est déjà ça. C'est une question de jours ou de semaines, nous a dit aujourd'hui EDF. EDF qui a ouvert ses portes justement à la presse aujourd'hui de cette pharaonique installation. Gaëtane Mélin était sur place, elle nous raconte. Gaëtane Mélin, qu'on va retrouver depuis Flamanville, va-t-on me dire oui ou non ? Est-ce qu'on peut écouter Gaëtan ?
La centrale nucléaire de Flamanville n'aura jamais été aussi proche du démarrage de son EPR. C'est la divergence, c'est-à-dire que c'est la réaction nucléaire qui permettra la production de chaleur. Cette opération interviendra dans les toutes prochaines semaines. Ensuite, eh bien, il faudra encore attendre plusieurs semaines pour que les premiers mégawatts arrivent sur le réseau électrique français. Ce sera alors le couplage. En attendant, les essais, les tests, les contrôles se poursuivent. Après tout, il aura fallu attendre 12 ans pour sa mise en service, alors quelques semaines de plus, cela apparaît tout à fait supportable.
C'est pas faux. Gaëtane Mélin, donc, à Flamanville pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, groupe plan social en vue chez Dyson, le spécialiste de l'électroménager annonce qu'il pourrait licencier 1 millier de personnes au Royaume-Uni sur 3500 personnes basées sur place. Le groupe se restructure depuis des années pour répondre à la demande qui se déplace de plus en plus vers l'Asie. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2019, il avait déjà déménagé son siège social du UK vers Singapour. Et puis, on revient à Paris. La décision était attendue. Finalement, on devrait voir des taxis volants au sud de Paris cet été pour les JO. Ça va démarrer doucement, mais comme on dit, il pourrait y avoir un marché. François-Xavier Roux nous raconte ça.
Les taxis volants, un marché qui pourrait peser 32 milliards d'euros dans une dizaine d'années. À ce moment-là, 40 à 60 000 de ces engins pourraient voler au-dessus de nos têtes dans une centaine de métropoles. Pour les constructeurs, une révolution comparable au développement de l'automobile des années 20. Et les investissements ne cessent de se multiplier. La semaine dernière encore, c'est Stellantis qui a investi 55 millions de dollars dans Archer Aviation, entreprise californienne qui a pour ambition de construire 650 taxis volants chaque année dès 2025. Très avancée sur cette technologie, la Chine avait réalisé, elle, dès le début de l'année, le premier vol interurbain au monde grâce à la start-up Autoflight. Un trajet en 20 minutes à peine entre Shenzhen et Zhuhai, dans la région de Hong Kong, contre plus de 3 heures en voiture. La promesse de ces entreprises, donc, rendre du temps aux usagers grâce à une vie sans bouchons, en investissant massivement les derniers kilomètres en ville. L'expérimentation parisienne, portée par l'entreprise allemande Volocopter en partenariat avec Aéroports de Paris, devrait, elle, permettre de rallier le Bourget au cœur de Paris grâce à une station flottante installée au niveau du quai d'Austerlitz en moins de 20 minutes.
Voilà, donc pas de panique si vous les voyez passer au-dessus de la capitale au cours des prochaines semaines. François-Xavier Roux avec nous sur BFM Business, 18h09. On va sur les marchés.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Les marchés, Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour bonsoir. BFM Business. Comment ça s'est passé ce mardi, mon cher Étienne?
C'est pas très joli, hein. Vous avez un CAC 40 qui perd 1,5% après une baisse de 0,6% hier, comme hier, à partir de 14h30. Et les Américains qui se réveillent, vous avez les marchés européens qui dévissent. Figurez-vous que vous avez un CAC 40 qui est sur des plus bas d'une semaine, à 7508 points. Et c'est même la plus forte baisse pour le CAC 40 en quasiment 3 semaines, avec des Américains qui regardent un petit peu ce qui se passe en Europe, qui ne comprennent pas grand-chose à la politique française. Ils se demandent si c'est l'extrême gauche qui va venir au pouvoir en France, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, dans le doute, ils vendent l'Europe et ils continuent d'acheter les États-Unis. Le Nasdaq, le S&P 500 sont tout simplement sur des niveaux records ce soir. Ajouté à ces incertitudes politiques, des incertitudes sur les entreprises, rendez-vous compte, Verallia perd aujourd'hui 18% après avoir revu à la baisse ses perspectives. Dassault Systèmes, moins 5% après avoir là aussi revu très légèrement ses prévisions pour cette année. BP du côté de Londres, géant britannique quand même, pétrolier, qui revoit à la baisse ses marges de raffinage. Le titre cède 4% à Londres, ça s'ajoute à Airbus. Souvenez-vous qu'il avait perdu 9% en quelques jours après avoir revu ses objectifs, ou encore souvenez-vous aussi des profit warnings du côté de Air France, Alstom ou encore Pluxee et L'Oréal. Donc dans le doute, le marché vend le CAC 40. Beaucoup de prudence, des volumes d'échanges qui manquent une nouvelle fois à l'appel, et un CAC 40 qui essaye tant bien que mal de se tenir aux 7500 points. 7508 points ce soir au fixing. Néanmoins, toujours pas de stress sur l'obligataire et l'euro qui tient les 1,08. Ce sont les seules bonnes nouvelles que j'ai à vous apporter ce soir, mon cher Guillaume.
Oui, enfin globalement, quand vous dites, c'est quand même pas très joli. Hein. Merci beaucoup Étienne, en tout cas. Merci quand même Étienne Brack, donc depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. On va aller voir du côté de Wall Street si c'est un petit peu plus joli. Pas tellement. Le Dow Jones là qui est à l'arrêt, quasiment stable, 39 312 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui fait un petit peu mieux, allez, plus 0,25%, 18 448 points. On est à la mi-séance, bien sûr. 18h12, à suivre l'invité d'Eddie Chevrillon, Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, interview réalisée le week-end dernier pendant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Eddie Chevrillon, la grande interview.
Bonjour à tous, nous sommes ici à Aix-en-Provence dans le cadre des rencontres économiques. Beaucoup de questions à poser à mon invité, c'est Christelle Edman, la directrice générale d'Orange. Bonjour Christelle Edman.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là, je sais que pour vous c'est toujours ici des timings très très serrés. Première question forcément, le climat ambiant, climat assez lourd sur le plan économique mais surtout politique, quel impact ça a sur vous, sur... Et puis en interne aussi, comment faites-vous pour gérer ce climat politique ?
Alors, c'est vrai qu'on a une situation très particulière en France, mais pour être honnête, en fait, ça a très peu d'impact au sein d'Orange. Les collaborateurs, finalement, quand on est dans l'entreprise, on se lève tous les matins pour servir nos clients, nos millions de clients. Et donc, ça, évidemment, y a des discussions à la cantine, il y a des discussions après le travail. Mais honnêtement, dans les boutiques et nos techniciens, ils font leur travail et finalement, peu de choses à changer.
Et dans les boutiques, les clients sont là ?
Ah oui, absolument. Honnêtement, il n'y a pas d'impact. Nos clients sont très exigeants, évidemment très impatients que nos réseaux fonctionnent. Rien n'a changé depuis la dissolution.
On a vu que le climat est assez violent. Est-ce que vous avez comment faites-vous pour éviter tout dérapage raciste, antisémite, tu veux dire, ça peut aussi bien se dérouler dans une entreprise de la taille d'Orange ?
Au sein d'un groupe comme Orange, effectivement, on travaille beaucoup sur à la fois valoriser la diversité, puisque on opère dans 25 pays et on a évidemment des collaborateurs qui viennent d'horizons très différents. Mais au fond, ce qui rassemble tout le monde, c'est notre mission, c'est la mission, c'est notre métier, c'est la fierté du métier qu'on fait. Et puis, au fond, nos clients, une fois de plus, c'est quand même notre boussole.
Alors, Chris Hellemann, vous n'êtes pas prêt de prendre vos vacances, en l'occurrence, parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, et vous êtes, je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le cadre des Jeux Olympiques, vous êtes le seul opérateur. Je crois qu'à Tokyo, il y en avait 5. Là, vous êtes le seul opérateur. Difficile de faire des tests en grandeur. Je ne trouve pas l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, en grandeur nature, voilà. Comment est-ce que vous êtes laissé le grand stress ? Comment vous préparez à tout ça ?
Alors, c'est vrai que c'est la première fois et en fait, ça reflète aussi la largeur du spectre d'activité du groupe Orange. On a l'habitude d'accompagner les grands événements sportifs. On accompagne en ce moment le Tour de France. Mais c'est vrai qu'on a un spectre très large et vous l'avez dit, Tokyo 5 opérateurs, les Jeux Olympiques, on est seul. Alors, on travaille déjà depuis très longtemps. D'abord, on a 1000 collaborateurs engagés. On se prépare, on accompagne. Et puis, évidemment, notre enjeu, c'est d'accompagner, de préparer les sites olympiques puisque notre métier, ça va être de s'assurer que les chronomètres, les sportifs, les arbitres, les médias, les photographes, tout ça soit connecté pour qu'on capte les images, qu'on capte les données et qu'on les diffuse, bien sûr, aux millions de spectateurs, mais surtout aux milliards de téléspectateurs.
Justement, ça fait un volume qui augmente de combien ? Je ne sais pas comment on peut dire ça.
Alors, ce n'est pas comme ça qu'on le mesure. On a l'habitude, les grands stades de foot, les grands événements sportifs, on était partenaire de la Coupe du Monde de rugby, mais c'est vrai que là, c'est 32 Coupes du Monde en même temps, sur un temps très dense. Et puis, c'est vrai que cette cérémonie d'ouverture qu'on a baptisée en interne l'Everest des télécoms, parce que 6 km de long, 120 bateaux. On va utiliser en plus des technologies, on va utiliser de la 5G privée, on aura des petites caméras 5G sur les bateaux pour capter des images. Donc c'est vrai que c'est un énorme challenge, mais en même temps c'est une énorme fierté pour nous, pour nos collaborateurs, de mettre en avant les savoir-faire d'un groupe comme Orange.
Aujourd'hui, vous dites nous sommes prêts ou pas encore complètement, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de test grandeur nature.
Alors, chaque jour entre maintenant et la cérémonie d'ouverture compte parce que certaines des préparations qu'on doit faire se feront dans les derniers moments parce que les sites ne sont pas complètement encore accessibles. Donc, on n'est pas complètement prêt, mais on sera prêt le jour J. Et puis, on a déjà eu beaucoup de répétitions. Et alors, on travaille évidemment avec l'ensemble des partenaires des Jeux, avec le COJO et toutes les organisations.
Alors, il y a quand même aussi beaucoup d'actualités business pour vous, forcément, même si vous êtes en quiet period en ce moment, même ça ouvre en ce moment. Est-ce que pour vous, ce qui se passe en Espagne, qui est quand même l'événement marquant dans votre actualité, donc le rapprochement entre MassMobile et Orange pour faire donner naissance au leader espagnol, alors sous des contraintes concurrentielles très fortes, pour vous, c'est un événement marquant pour Orange, mais aussi pour le secteur des télécoms.
C'est vrai que le marché espagnol est très concurrentiel et reste très concurrentiel. La fusion entre MassMobile et Orange, donc on a créé MassOrange le 1er avril. Les équipes sont intégrées et donc on doit délivrer les synergies. Équipes sont intégrées, il y a une équipe de management. Alors on travaille sur beaucoup de programmes qu'on avait eu le temps de préparer puisqu'on a 2 ans de négociations avant le closing de cette opération. Mais dans un marché qui reste très compétitif avec des prix d'entrée, des marques low cost très agressives et effectivement aussi des marques. Donc on a un certain nombre de marques, mais c'est un projet important.
Quel impact ça a déjà eu à votre avis sur le marché espagnol ?
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le voir, mais nous, on sait que les vraies synergies, elles sont opérationnelles, puisqu'on vient migrer des clients sur notre réseau. On est dans un métier de coût fixe. Quand vous absorbez plus de clients sur un réseau, vous créez des synergies, c'est mécanique.
Et le montant des synergies, il est combien ?
Donc nous, on a chiffré 490 millions d'euros de synergies annuelles à partir de l'année 4 post-closing.
Oui, d'accord. Donc ça a commencé.
Donc on commence, ouais, évidemment, avec une montée en puissance sur les 4 prochaines années.
C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé sur le marché espagnol. Est-ce que, la question classique, hein, est-ce que ça peut se passer en Europe et surtout, est-ce que ça peut se passer en France ? Si je vous pose la question, c'est qu'on a vu que ça y est, c'est le retour de la guerre des prix. Alors c'est surtout Free et CFR qui lancent cette guerre des prix. Mais cette guerre des prix, elle montre bien que l'exercice devient compliqué pour les opérateurs en France, parce qu'il y a très peu de relais de croissance. Bon, il y a eu la fibre, il y a eu la 5G, tout ça, on a expliqué que c'était le nouvel Eldorado pour les opérateurs télécoms. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais donc, pour vous, vous êtes dans une situation qui devient compliquée sur le marché français.
Bah, tous les marchés sont spécifiques. Le marché français, il n'a jamais cessé d'être concurrentiel. Vous avez des prix d'entrée qui sont très agressifs. Alors évidemment, tout notre enjeu, on a plusieurs marques, on doit pouvoir permettre à un client de trouver l'offre qui correspond à ses besoins et on a des prix d'appel qui sont effectivement très attractifs.
Oui, alors, un peu plus élevé que les autres.
Ça dépend, ouais, parce que nous, évidemment, sur le mobile, en tout cas, on a un meilleur réseau, mais on a des prix et finalement, souvent, on a cette image qu'Orange est plus cher que les autres, mais ce n'est pas vrai. Et en fait, si vous regardez, hein, et en ce moment, on a beaucoup de promotions ou d'offres. Mais une fois de plus, oui, on est dans un marché très difficile. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a moins de croissance. On n'est plus dans une époque où les Français s'équipaient de téléphones portables. On voit plutôt reculer l'âge du premier portable. Mmh. Et donc, c'est vrai que dans un marché à 4 acteurs, c'est très difficile de créer de la croissance. Donc nous, la croissance, on la crée quand même, à la fois évidemment en volume, mais surtout en valeur. Vous savez qu'on a lancé des nouvelles offres, en particulier sur la protection, la cybersécurité pour les particuliers. Oui. Donc on est dans l'innovation, aller apporter évidemment la fibre, la 5G et des relais de croissance.
Les relais de croissance, c'est plus tellement sur la téléphonie en tant que telle, parce que même vous avez perdu des clients, je crois, sur les deux derniers trimestres, non ?
Alors, on a toujours de la croissance dans notre cœur de métier, parce que effectivement, nos ARPU, donc c'est le revenu moyen par client, continue d'augmenter, mais effectivement, c'est la croissance en volume, c'est-à-dire que quand dans un marché mobile, et c'est le cas au premier trimestre, hein, il y a eu, c'est l'ARCEP, hein, le régulateur qui le dit, oui, le 31 mars 2024, il y avait moins d'abonnements mobiles en France qu'il n'y en avait le 1er janvier. Donc dans un marché qui est sous pression, forcément, ça crée de la pression pour l'ensemble des acteurs. Et je le rappelle, c'est aussi parce qu'on continue à investir massivement dans nos réseaux.
Oui, mais donc pour vous, le relais de croissance, alors peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme, il est où ?
Alors nous, les relais de croissance, on les connaît. Alors bien sûr, on est convaincu que les infrastructures, la fibre, la 5G, on déploie nos réseaux et ça a de la valeur. Aujourd'hui, hein, même si pendant les JO, on offre à l'ensemble de nos clients la 5G, même s'ils sont clients que 4G, on voit qu'il y a quand même de la valeur. Et puis, les relais de croissance, on l'a dit, la sécurité, la cybersécurité. On va parler beaucoup d'IA. On en parle beaucoup déjà aujourd'hui. C'est pas encore, l'IA n'est pas encore sur des usages grand public, mais il y a énormément d'innovation. Et donc, nous, on se pose vraiment la question de dire qu'est-ce que ce sera qu'être un opérateur à la pointe sur les enjeux d'IA. On a beaucoup de sujets.
Merci de poser la question. Mais est-ce que je peux avoir la réponse ? C'est pas moi qui vais la donner, ça va être vous.
Mais en fait, on n'a pas encore. D'abord, on est dans une matière vivante sur laquelle il y a. L'innovation va très, très vite. Mais on voit bien que si demain vous avez de la traduction en ligne sur votre portable, si vous avez un assistant personnel, en fait les attentes des consommateurs quand on va utiliser de l'IA, ça va être du vrai temps réel, c'est-à-dire de la latence qui va être beaucoup plus basse que ce qu'on a pris l'habitude d'avoir dans un monde internet où finalement on va sur les réseaux. Et donc ça va être l'occasion d'utiliser la 5G avec toute la puissance de feu de la 5G. Donc enfin on aura quelque part cette killer app pour la 5G et on pense que l'IA sera une vraie révolution.
En termes d'investissement, pour vous, l'IA, ça représente quoi chez Orange ?
Aujourd'hui, on utilise déjà l'IA depuis des années. Alors, oui, on parle beaucoup de Gen AI, mais c'est peu par rapport à ce qu'on investit. Aujourd'hui, on investit plus de 6 milliards par an dans nos réseaux. Nos systèmes, l'IT et tout ce qu'on met dans l'IA, c'est des petits montants. Les vrais investissements dans l'IA, ils sont sur les compétences. On parle beaucoup de cybersécurité, les bases de données. Au fond, la valeur dans l'IA, c'est pas l'IA, c'est les données. Et les données qu'on a construites depuis 10 ans dans la cybersécurité, les millions d'attaques qu'on analyse tous les mois, c'est ça qu'on va utiliser derrière pour créer finalement des applications qui seront utiles.
Donc ça veut dire que ce qu'on a, là je parle d'un point de vue consommateur, ce qu'on a dans notre téléphone, ça va évoluer d'une manière considérable, mais quand ?
Alors c'est très parce difficile.
J'ai déjà l'IA dans mon téléphone.
Il y a déjà beaucoup d'IA dans le téléphone si vous utilisez plein d'applications qui embarquent de l'IA. Mais on voit que ce soit les grands acteurs de la tech, il y a beaucoup d'innovations dans les tuyaux qui ne sont pas encore généralisées. Vous regardez, OpenAI a lancé GPT-4o. Oui. Si aujourd'hui, d'ailleurs quand ils ont fait le lancement, vous remarquerez que la petite vidéo, c'était un iPhone qui était branché par un fil pour la qualité de la connectivité. Donc on voit bien que l'IA, quand on va utiliser de la vidéo, de l'interaction en temps réel, ça va fondamentalement changer la façon dont on va devoir utiliser les réseaux. En tout cas, nous, on s'y prépare et on travaille avec tous les grands acteurs de la tech pour préparer ces innovations qui n'arriveront peut-être pas dans 3 mois, mais elles vont venir et c'est une vague très profonde et très solide.
Oui, mais quand je parlais d'investissement, c'est-à-dire que on voit bien, là, on a vu que par exemple en France, Internet, il y a 16%, c'est la plateforme, c'est Netflix. Donc là, avec l'évolution des usages, ça va avoir un impact considérable sur la capacité que vous avez dans vos téléphones et la capacité que vous avez Orange, si je suis chez Orange.
Alors, en fait, quand on est... Il faut regarder deux choses différentes. Les réseaux fibres, c'est un potentiel infini d'utilisation de trafic. Et donc, il y a même des innovations qui vont pouvoir les mettre à niveau. Donc on a vraiment un réservoir de croissance qui est considérable et c'est d'ailleurs une des forces du groupe Orange puisqu'on est l'opérateur qui a le plus investi dans la fibre en Europe. Dans les réseaux mobiles, c'est très différent parce qu'effectivement, dans les réseaux mobiles, il y a une ressource rare qui s'appelle le spectre, qui est c'est physique. Et donc malheureusement, c'est sur les réseaux mobiles où on va devoir être très pointilleux et très intelligent dans la façon dont on va utiliser ces réseaux. Et c'est là où la 5G jouera tout son rôle.
Je reviens un instant sur la consolidation. Il y a beaucoup d'interrogations autour d'ECFR, donc qui appartient au groupe Altice. Pour vous, est-ce qu'il y aura forcément une consolidation? Et le danger n'est pas que, par exemple, ECFR se fasse un peu comme sa petite sœur au Portugal, rachetée par un Saoudien, un opérateur étranger, par STC, par exemple.
Alors,
l'arrivée d'un étranger, ça peut faire peur, non, aux opérateurs français?
Je vais vous dire, la France, c'est un pays très particulier.
Bah, oui.
Parce qu'en France, on a effectivement 3 concurrents qui sont des concurrents français. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on observe dans le reste des pays européens. On a des acteurs mondiaux qui sont présents en Espagne, Telefonica ou Vodafone qui vient d'en sortir, mais c'est des acteurs européens. Donc en fait, c'est la France qui est très particulière.
Alors, donc ça va arriver, c'est ça que vous ne...
Je ne sais pas, parce que d'abord, il faut poser la question à Altice, bien sûr. Mais après, c'est pas évident, parce que dans un marché à 4... qui est moins en croissance que par le passé, c'est pas évident. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord c'est pas Orange qui peut être l'acteur de la consolidation. Donc de toute façon, il faut poser la question aux autres acteurs.
Bien sûr, mais en même temps, ça vous concerne.
Bien sûr, bien sûr, ça nous concerne. Mais on voit bien que c'est pas facile, d'abord pour un opérateur étranger, de créer de la valeur quand il rachète un opérateur dans un pays.
Hier, j'ai animé une table ronde avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, qui a fait un rapport très intéressant, je dirais un peu fondateur, si ce n'est que tout change. Donc on ne sait pas très bien si ça va être dans un placard ou si au contraire, ça va être la feuille de route de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement sur comment faire évoluer le marché intérieur. Il a sélectionné des points clés, évidemment, les télécoms. Est-ce que pour vous, ça veut dire quand même que les mentalités au niveau européen sont en train ou ont déjà évolué ?
Alors c'est vrai que d'abord on soutient totalement l'analyse d'Enrico Letta dans son rapport. Il y a un rapport qui avait été sorti par la Commission aussi sur l'état des télécoms. Et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est pas de regarder le passé, etc. C'est de se dire de quoi a-t-on besoin pour construire les infrastructures numériques dont on aura besoin en 2030. Et aujourd'hui, on est dans un marché des télécoms fragmenté, mais qui se fragmente de plus en plus chaque jour. Non pas, alors il y a une réalité, quand on a 27 États membres, 27 régulations, c'est 27 marchés, on n'a pas la taille critique de la Chine ou des États-Unis. Mais c'est vrai aussi que même au sein de ces marchés, on a des opérateurs télécoms européens qui sont endettés et qui continuent de vendre leur infrastructure pour pouvoir continuer à investir dans la 5G ou dans la fibre. Et donc c'est en soi la question de la résilience et de qui sera le propriétaire demain des infrastructures numériques en Europe qu'on doit se poser.
Christelle Elma, ça fait combien de mois que vous êtes à la tête d'Orange?
Oh, ça fait un peu plus de 2 ans, donc je compte plus en mois.
Ah, d'accord, non, mais effectivement, je vous posais la question, savoir si vous comptiez encore en mois ou pas. Parce que vous avez opéré un recentrage, donc vous avez vendu OCS, vous avez vendu Orange Bank. Est-ce que vous estimez que vous êtes à jour dans votre feuille de route, dans votre plan stratégique? Et qu'est-ce qui vous reste à faire d'urgent?
Alors, on publie nos résultats dans quelques semaines et donc on fera à cette occasion un peu un bilan puisqu'on est à mi-parcours hein, du plan stratégique. Oui. On a déjà effectivement atteint beaucoup de nos objectifs. Hein, donc effectivement, il y a une partie recentrage.
Mais, il est fait pour vous ?
Alors, il est fait, mais autant on se recentre parce que certaines activités on considérait pas stratégiques ou alors on n'était pas le meilleur actionnaire pour continuer à les développer. Mais l'innovation, on a parlé d'IA, on a parlé de sécurité, c'est des sujets critiques pour nous, c'est des vrais relais et c'est des sujets sur lesquels on est attendu par nos clients. Donc c'est certes le recentrage, mais on a encore beaucoup de choses à faire dans l'innovation et pour apporter toujours plus de services sur des sujets pour lesquels les clients attendent de notre part quelque chose.
Donc ça, c'est vraiment la priorité. Un mot quand même sur l'Afrique, parce que vous en avez parlé ici. On sait que Orange est très, très présent en Afrique. Pour vous, ça reste, c'est là où est le relais de croissance ou pas, pour votre groupe?
Alors, ce n'est pas le seul relais de croissance. Si on regarde purement le marché télécom, c'est vrai que le continent africain, il est tiré par une démographie qui fait qu'on a des taux de croissance qui sont double digit, comme on dit aux investisseurs, là où l'Europe est dans des taux de croissance bien plus faibles. Et donc, nous, l'Afrique, c'est une vraie spécificité. Ça fait partie de notre plan stratégique et donc on assume. Hein, et c'est de la croissance.
Et vous continuez parce que, par exemple, sur l'Éthiopie, là, je crois que vous avez arrêté. Il y a d'autres pays où vous êtes un peu en stand-by. Ça reste quand même une de vos priorités.
Ah, c'est absolument une priorité pour nous. On est présent dans 18 pays d'Afrique. En permanence, on regarde les opportunités d'investir dans des nouveaux pays. Ou alors, effectivement, il nous arrivait par le passé hein, de sortir de certains pays quand les conditions étaient plus réunies pour nous pour opérer. Mais aujourd'hui, on est très content de notre position en Afrique. Et effectivement, vous avez mentionné l'Éthiopie. On a regardé le dossier, mais les conditions n'étaient pas réunies pour investir. Et donc, on ne l'a pas fait.
Et donc, vous l'avez refermé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Christelle Edman, donc directrice générale d'Orange, qui était notre invitée. Puis bon Jeux Olympiques alors.
Merci.
Merci.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h37, c'est reparti jusqu'à 20h. Good evening business en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Les experts sont là. Frédéric Simotel, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Frédéric. Pascal Delimat avec nous. Pascal, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Chef
bonsoir,
économiste bonsoir. Chez CG Business Consulting et Léonidas Kalogiropoulos. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Médiation et Arguments et fondateur des Entrepreneurs pour la République, dépêche de l'AFP qui nous dit que le Front Populaire met en garde solennellement Emmanuel Macron contre le maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon. Léonidas fait une tête. On parlera de tout ça dans un instant, une tête reposée de la situation française.
Non, oui. On est obligé de réagir à chaque vocifération.
On en parle parce que l'actualité est mouvante, elle est importante. On parlera de tout ça dans un instant. Bon, on va prendre un petit peu de hauteur en attendant.
Prenons de la hauteur.
Oui. Parce que c'est toute l'Europe spatiale qui brûle un cierge. Si tout va bien, dans un peu plus de 2 heures maintenant, Ariane 6 va décoller de Kourou en Guyane. Pour effectuer son tout premier vol. Ça fait 1 an que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace. C'est beaucoup. Hein,
alors, c'est beaucoup, surtout que l'accès à l'espace est de plus en plus, évidemment, une question de souveraineté et que, eh ben, à ce jeu-là, il nous semble que les Américains et les Chinois, eux, accélèrent nettement. Frédéric Simotel.
Les Américains, les Chinois, les Indiens, les Japonais, beaucoup de monde accélère. Et c'est vrai que nous, il nous manquait ce lanceur. Alors, Ariane 6 était prévu depuis un moment. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je prends juste l'exemple de SpaceX. C'est plus de 200 lancements sur l'année. Nous, Ariane 6, on va en lancer beaucoup moins. Hein. Ce sera,
alors, combien ?
On sera dans 10-12 lancements, mais sur plusieurs mois. Ouais. Après, c'est pas les mêmes, on n'emporte pas les mêmes charges. En plus, Ariane 6, c'est une nouvelle génération de fusées. Alors, elle n'est pas comme, c'est-à-dire que les lanceurs qui permettent à la fusée de partir ne reviennent pas sur Terre comme sur SpaceX. Hein. Nous, voilà, ils servent une fois. Par contre, cette fusée-là a une particularité technologique, c'est qu'elle peut déposer des satellites sur 2 orbites. Elle peut faire une orbite basse, elle va ouvrir, lâcher ses premiers satellites, les Starlink, les Kuiper, de, d'Amazon qui vont arriver, et puis poursuivre sa route et déposer d'autres satellites pour d'autres besoins. Donc nouvelle génération, beaucoup de technologies à l'intérieur, elle est plus légère, elle est plus économe en carburant, on travaille beaucoup sur les carburants aussi au sein de Arianespace. Elle est aussi elle va exister en deux versions hein, pour amener différentes sortes de satellites. Sur la partie techno, on peut dire bon, il y a pas mal évidemment de techno avancée à l'intérieur. Et puis derrière, bien évidemment, cette partie souveraineté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Audrey venait de le dire, il y a les Chinois, il y a les Américains, il y a d'autres. Et là, il faut vraiment qu'on ait un lanceur européen. Là, on l'a parce que on va lancer des satellites militaires, on va lancer des satellites de télécom pour nos propres besoin. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxième souveraineté, c'est avoir accès à la technologie. Hein. C'est une technologie d'avenir. Hein. La Space Tech, le New Space, l'espace d'une façon générale. Emmanuel Macron l'avait mis dans les priorités stratégiques, technologiques. Donc là aussi, il faut y aller. Et puis, continuer à travailler pour réduire les coûts, pour être dans la compétition internationale. Donc c'est un événement important. Alors on attend, c'est une fenêtre de tir. On a une fenêtre de tir entre 20h et 23h. C'est lié à la météo. Est-ce qu'il peut y avoir un petit pépin technique? Bon, on espère pas, mais a priori, voilà, le lancement est prévu ce soir.
Précision, pardon, juste une chose, si ça marche pas ce soir,
c'est extraordinaire,
faut pas se pendre au lustre, parce
qu'il y en a un autre.
Ariane 5 en 96, le premier vol, ça marche pas, et ensuite, c'est deux échecs en 117.
Pour les plus anciens, c'était une moquerie hein, à l'époque, Ariane ne décollait pas, enfin, c'était un petit jeu, enfin, tout le monde plaisantait autour de ça.
Bon, deux échecs en 117 tirs, voilà.
Ouais. Il faut quand même le rappeler, voilà.
Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'on a un plan B si jamais il y a un incident. Il y en a un autre qui est en réserve et on peut le tirer dans la semaine en ajustant et en tirant les leçons de ce qui aura bugué aujourd'hui. Donc je trouve que c'est assez extraordinaire en termes de
technologie.
C'est vrai. Et je trouve presque d'ailleurs que c'est un contraste fascinant entre le désordre qu'il y a à la tête de l'État et l'exécution. L'exécution, mais attendez, c'est ça la vraie vie.
Le parallèle est intéressant.
Elle est là. La France. Elle est en train de lancer des fusées pendant que l'on a des psychodrames qui se livrent.
La France de l'innovation.
Et qui pense être au centre du monde et au centre du pays.
Une France de l'innovation, en plus, je rappelle, hein, on se met beaucoup de contraintes technologiques hein, autour de cette fusée. On veut qu'elle soit économe, on veut qu'elle soit plus durable. Donc on travaille sur les matériaux, on travaille sur le carburant. Enfin vraiment, on se met davantage de contraintes que les Américains ou que les Chinois, hein, faut quand même le dire. On est vraiment à la pointe de cette technologie. Donc voilà, il faut soutenir... pour soutenir tout ça, et puis encore une fois, il y a cette histoire de souveraineté.
Oui, alors justement, donc cette histoire de souveraineté, il faut le rappeler parce que c'est important, depuis la fin brutale du partenariat avec la Russie, l'Europe ne disposait plus d'accès indépendant à l'espace.
Oui. Complètement
dingue.
On a envoyé des satellites via SpaceX. Hein, ils continuent à avoir cette collaboration internationale hein, avec SpaceX, alors plus avec les Russes, bien entendu. Mais là, voilà, il fallait quand même qu'on ait nos lancements. On a des satellites, je le disais, on a des satellites militaires, des satellites télécom, des satellites scientifiques. Ouais. On n'a pas envie que ce soit aux mains d'être lié à d'autres.
Pascal, oui, je crois que l'Europe de l'espace n'a jamais eu envie de dépendre des États-Unis sur le sujet.
Non, c'est le cas aussi dans d'autres domaines, hein, notamment. Dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on a un combat un peu tripartite avec l'autonomie énergétique, l'autonomie également dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine du militaire. Et évidemment, tous ces éléments-là sont interdépendants. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est... Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en Europe. On parle beaucoup également de retrouver une autonomie énergétique à travers le nucléaire. Mais il y a aussi, effectivement, l'espace européen, l'industrie spatiale européenne qui est absolument essentielle parce que les retombées économiques, d'abord, sont importantes. Des retombées géostratégiques en termes de leadership technologique, en termes de leadership pour le secteur des télécommunications. Mais les retombées sont colossales aussi en matière de partenariats de recherche-développement sur les plus récentes technologies, évidemment. Derrière tout cela, il y a des entreprises aussi qui travaillent pour le spatial. Et donc, il y a des milliers d'emplois. Il y a l'IA, les drones, tout ce que vous voulez derrière qui font partie. Puis il y a les contrats commerciaux qui vont arriver aussi. Donc,
oui, c'est ça, parce que les enjeux commerciaux sont colossaux.
Il y a quand même aussi une dimension... parler de souveraineté, mais un pays, un continent qui ne maîtrise pas l'accès à l'espace est aujourd'hui quelque part, j'allais presque dire en termes de symbolique, dans les rapports de force géostratégiques, dépassés. Et je pense que de ce point de vue-là, ce lancement, il a des enjeux aussi en termes de poids
d'influence.
Et d'influence, oui, absolument.
Pour conclure, Frédéric, on va vous libérer. Mais vous dites qu'on n'a pas encore perdu le match face aux Américains, face à SpaceX et consorts, finalement, avec Ariane 6. Parce que c'est source d'espoir,
Chacun est sur son marché. Alors, SpaceX, oui. Voilà.
Chacun est sur son marché, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, évidemment, oui, il y a une compétition internationale, mais voilà, nous, on a quand même. Il faut voir Ariane 6, même si le lanceur ne revient pas, même si certains critiquent le fait qu'il ne revienne pas comme les lanceurs de SpaceX, on a une avance, on a une grosse avancée technologique.
Et là, on est sur un saut technologique par rapport à Ariane 5, véritablement.
Ah oui, en matériaux, en carburant, en technologie.
Oui, en termes de consommation.
Et en termes de prix.
Oui, avec des coûts de production qui sont largement réduits.
Oui, en termes de prix également. Et puis, encore une fois, SpaceX bénéficie aussi de tous les contrats avec la NASA et tout ça. Et
voilà.
C'est là aussi où il faut.
C'est ce que j'allais vous demander.
Réussir à fermer un peu, à cloisonner un peu tout ça, parce que là aussi, on se fait un peu avoir de temps en temps, avoir des commandes européennes qui partent. Alors, quand ils peuvent pas faire autrement, bon, ils passent par SpaceX ou d'autres, mais là.
Oui, parce que enfin, est-ce qu'on peut dire que la commande publique aux États-Unis fait que SpaceX devient l'acteur incontournable, évidemment, américain, mais aussi international, et que forcément, la commande publique européenne, elle a quand même du mal à se mettre en place.
SpaceX est sauvé par la NASA. Hein. SpaceX, ouais. il a lancé ça. Alors, il y a tout le talent, hein, évidemment, d'Elon Musk, de mettre en route toutes ses ingénieurs, ses usines et tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu la NASA, il a été à deux doigts d'arrêter l'aventure. Et puis la NASA a remis au pot. Les problèmes de la NASA, on a vu les échecs de Boeing.
Oui,
voilà, donc les États-Unis voulaient continuer à avoir un accès à l'espace. Et là, il s'est avéré qu'Elon Musk était là avec SpaceX. Donc ça a convenu. Ouais. Et puis derrière, c'était une réussite technologique aussi. Il faut bien en parler.
Il faut bien voir aussi les conséquences que ça peut avoir en termes purement économiques. C'est-à-dire que mettre en place des satellites sur orbite, c'est aussi observer les conflits potentiels, c'est aussi observer les flux maritimes, la densité de population, l'agriculture, la faune, la flore. Il y a un tas de choses qui sont
interdépendantes. Et de l'espace, on peut guider des missiles. Hein.
Et donc, c'est un enjeu du futur absolument essentiel.
Et c'est ça qu'on oublie souvent de dire, c'est l'importance de toute la donnée que l'on récupère. Et là, il faut qu'on ait aussi à terre des structures pour exploiter cette donnée et qu'elle ne parte pas chez Google ou d'autres comme
ça. Là, elle va partir un peu chez Amazon, puisque en l'occurrence.
Et Jeff Bezos.
C'est en l'occurrence Amazon qui est le premier client important de Ariane 6.
Bien, si tout va bien, donc c'est 21h, c'est ça.
Entre 20h et.
Ouais, c'est pour vous ce soir, Tech & Co. On dirait que
ce sera dans Tech & Co.
Et ça a été calé pour ça.
Ils sont calés sur Tech & Co. Et on a un reporter, Jean-Baptiste Huet, qui est là-bas et qui nous fera.
Qui est donc à Kourou. En Guyane.
Ouais, bon.
On brûle un cierge. Merci Fred, à tout à l'heure, à partir des 20h, bien sûr. Exactement. Pour Tech & Co avec François Sorel, bien sûr. Bon, désolé, on va revenir sur les.
Et sur l'actu française. Ah, puisque pendant ce temps, donc, grande question, comment va-t-elle cette économie française? Donc là, on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture. Alors, ça nous dit globalement que jusqu'à l'annonce de la dissolution, ça allait pas trop mal, mais pour la suite, c'est un peu flou.
Bah oui, parce que l'INSEE nous dit, alors, avant la dissolution, qu'est-ce qu'on avait dans nos chiffres? On avait une croissance d'1,1%. Pour cette année 2024, c'est-à-dire aussi bien que l'an dernier. Mmh. On avait une inflation qui était partie pour redescendre à 2% en décembre et on avait un chômage qui était censé remonter mais un tout petit peu se stabiliser à 7,6%. Oui, mais ça, Pascal, c'était avant. Voilà. Et la question sans réponse, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça dans quelques mois, une fois qu'on aura eu peut-être des mois de paralysie.
Il y a des ajustements qui vont être faits, on verra. Il y a Moody's, l'instabilité politique, il peut y avoir une perspective négative, ça peut refaire tomber un peu le moral des investisseurs. Mais effectivement, 1,1% sur 2024, une relance de la consommation, une amélioration du pouvoir d'achat, les exportations qui ont l'air de repartir, en tout cas selon les prévisions de l'INSEE. Écoutez, tout va bien.
Voilà. Non, au 9 juin, tout allait bien, quoi.
Voilà, au 9 juin, tout allait bien, mais enfin, en tout cas, ce que dit l'INSEE n'a pas l'air, franchement, alarmiste. Maintenant, on attend un petit peu de voir aussi, parce que vous savez, tout ça évidemment est indépendant. C'est des données macroéconomiques, donc il y a des réalités aussi concrètes que vivent les Français qu'il faut tenir, dont il faut tenir compte. Hein. Évidemment, les inégalités, évidemment la précarité technologique, on essaie de résoudre hein, par les entreprises, par l'enrichissement des métiers, les slasheurs, la multi-activité, les jeunes, etc. Donc, bon, tout ça est un petit peu macro, mais au niveau microéconomique. Alors, il y a quand même des questions encore à se poser qu'on ne traite pas forcément.
Je me permets de tempérer un tout petit peu cet enthousiasme, Pascal, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous disent que l'économie, elle se porte pas si bien que ça, qu'elle ne se portait pas si bien que ça avant la dissolution. Si on regarde, bon, je vous parle même pas du niveau record historique du déficit de l'État, qui sur les 5 premiers mois de l'année, 113 milliards d'euros, alors que Bercy nous annonçait la tendance inverse. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, on a une chute de la production industrielle de quasiment 2% sur un an, et le pompon, c'est la hausse du déficit commercial. On est à 86 milliards sur un an.
Et on va l'exploser.
Donc, c'est pas si rose que ça.
Non, Leonidas. C'est pas si rose que ça, mais les réformes qui sont en cours. Alors, j'ai pas envie d'ailleurs de dire que tout allait bien et qu'il fallait attendre. Les résultats sont pas aussi bons que ceux qu'on voudrait. Et je veux dire par là que, très objectivement, il faut quand même le dire, on s'attendait à ce qu'une politique pro-business, qui est celle qui a été quand même menée...
Et qui a coûté très cher,
et qui a coûté cher, et des résultats plus probants que cela.
On est d'accord.
Et on s'attendait...
Bruno Le Maire s'est quand même félicité de ces chiffres tout à l'heure. Sur...
Oui, mais
voilà, il se félicite de beaucoup.
Non, attendez, il peut se féliciter. Néanmoins, il y a quand même une nuance. C'est pas parce que les résultats ne sont pas aussi bons que ce ne sont pas des résultats qui sont quand même des performances. Surtout... je crains que ce soit aujourd'hui les meilleurs résultats d'une politique économique qui, si elle devait être remise en question demain matin par je ne sais quel apprenti sorcier, ferait s'écrouler la très fragile croissance que nous avons encore. Donc c'est enfin, la situation de la France, elle est plutôt bonne et très fragile. Donc, vouloir remettre en cause nos fondamentaux aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment irresponsable. Par ailleurs, je dois dire que le point qui nous déçoit le plus, c'est que le taux d'emploi soit plus élevé qu'il l'a été depuis les 20 dernières années.
Oui, c'est
et
vrai.
Que ça ne ramène pas dans les caisses de l'État autant de recettes que nous l'espérions. Parce que qui dit travail dit effectivement cotisations sociales, taxes qui sont payées. Et globalement, la productivité que l'on a en France n'est pas suffisante. Et donc, on n'a pas les fruits de ce retournement positif, en tous les cas, de cette croissance qui reste très fragile. Alors aujourd'hui, je crois que c'est la consommation qui porte encore un peu notre croissance. Mais bien entendu, c'est extrêmement fragile.
Voilà, parce qu'il y a aussi un attentisme. Alors, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, de la part des investisseurs étrangers qui attendent, en effet, de voir ce que le nouveau gouvernement va donner,
beaucoup comment il va être composé,
quelles vont être les décisions de fond. Mais les épargnants aussi sont dans une situation d'attentisme. Tout le monde attend, du plus petit portefeuille au plus gros portefeuille, de voir ce que les prochaines semaines vont donner. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trimestre perdu pour la croissance française ?
J'espère pas. En tout cas, les épargnants, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, épargner, c'est la conséquence d'un travail, c'est la conséquence d'un parcours professionnel, c'est la conséquence d'un projet personnel et professionnel, et qu'on a entendu des choses absolument horribles sur la taxation future, potentielle de l'épargne par rapport à certains programmes. Et évidemment que ça, c'est vraiment
très inquiétant. Parce qu'on vous explique, s'agit pas de s'approprier l'épargne, c'est mieux flécher, mieux orienter l'épargne.
Voilà, oui, corriger le tir. Mieux flécher, mieux orienter, mais enfin, à la limite,
corriger le tir. Oui,
j'ai refait. On veut pas shipper l'épargne, on veut mieux orienter l'épargne.
Oui, c'est vrai que quand on écoute, on n'est pas totalement certain.
D'accord, pardon,
je
vous interromps
plus. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout, ne pas oublier que l'épargne pour les banques, c'est aussi l'investissement, et qu'on a besoin d'investissement d'avenir, entre guillemets, sur les métiers du futur, sur la transition écologique, numérique, sur les innovations, et qu'il faut libérer des ressources, et que voilà. Donc, tout cela pour dire qu'en gros, ne pas trop se focaliser sur ce problème de l'épargne, parce que c'est vraiment un élément central, vraiment central de dynamisme économique.
Bon, en tout cas, vous y avez fait référence, Pascal, ça n'a pas traîné à peine ces élections passées. Vous avez vu que les agences de notation commencent déjà à nous mettre la pression. On a eu Standard & Poor's dès hier lundi.
Oui.
Et Moody's ce matin qui a mis en garde explicitement contre l'abrogation de la réforme des retraites, carrément.
Oui, et qui appelle aussi à ne pas dévier de la ligne qui était encore il y a quelques temps, de faire des économies. Mais ce qui inquiète globalement, c'est que ces agences de notation, elles n'avaient pas pour habitude de réagir autant aux faits politiques.
Oui, mais là, il y a quand même une concomitance calendaire.
Elles ont rendu leur notation il y a quelques semaines. C'est quand même très très court. C'était très tendant sur la base d'explications qui ont été données par le gouvernement qui était là il y a encore 15 jours. Enfin, qui est encore là d'ailleurs, même s'il est empêché d'agir, je crois, on peut le dire ainsi. Et dès lors, ce sont les fondamentaux sur lesquels ils ont rendu leur copie qui sont potentiellement remis en question. Donc ils ont, je trouve quand même qu'il y a une certaine forme d'honnêteté intellectuelle derrière ces annonces, de dire, voilà quelle était la notation par rapport à des fondamentaux, et dans les fondamentaux, il y avait la réforme de la retraite.
Enfin, la réformette de la retraite, parce que le CAF vient de nous annoncer que dès 2024, on replonge dans le rouge avec un trou de quasiment 6 milliards d'euros.
Il faut faire attention sur... je suis d'accord avec vous, mais la réformette de la retraite, c'est quand même mieux que pas de réforme du tout.
Oui, mais de toute façon, à partir du moment où on sait qu'il allait falloir repasser par une énième réforme, de toute façon, abroger celle-ci ou pas, on va être obligé de repasser par quelque chose de différent.
Oui, mais je ne pense pas que l'on puisse... je pense qu'on ne se rend pas compte du risque dans lequel on est. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de ce que représente le bord de la falaise où nous sommes placés aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait demander, et peut-être que ça serait intéressant de le faire rapidement, à ce que les Grecs racontent ce que ça a été de passer 10 ans sous la coupe du FMI.
On s'en souvient, on l'a vu.
Eh bien, ce sont des crises gravissimes et ça marque les familles, ça marque le quotidien des gens. C'est autre chose que d'avoir 5% d'inflation à la pompe.
Et je pense on est bien d'accord, on est pas on est quand lucide. Même loin du cas grec, en tout cas pour le moment.
Je ne crois pas qu'on soit loin du cas grec.
Ah non, Léonidas.
Non, je ne crois pas qu'on soit loin.
On n'est pas à deux doigts de voir les agents du FMI débarquer dans leurs petits costumes quand même. Là.
D'abord, on a.
On n'a pas des comptes qui sont trafiqués, a priori. Et deux, on a des
agents qui ne sont pas forcément ceux du FMI. Mais en tous les cas, je crois que si on a notre dette qui commence à déraper, les taux d'intérêt qui commencent à gonfler, je pense que l'on est dans une situation de crise grave. Enfin, rappelez-vous quand même, on est à 113% de déficit.
Déficit par rapport au PIB. Enfin, PIB. Si on se compare aux États-Unis.
Et on a des taux d'intérêt qui restent encore aujourd'hui, j'allais dire, très avantageux, parce qu'on nous fait encore confiance. Que l'on perde confiance en la France, je pense que nous sommes en risque
je
majeur.
Je pense que tous les ténors, quels que soient les partis politiques, ont l'âge et l'expérience et le recul pour se rappeler de ce qu'ont été effectivement ces 10 années passées par la Grèce avec les agents.
C'est marrant ce que vous dites, parce que je ne trouve pas à entendre un certain nombre d'entre eux.
Il y a des images, des discours,
enfin, je ne pense pas à entendre certains d'entre eux qu'ils aient ça à l'esprit actuellement.
Électoralement, on ne pouvait pas dire ça, mais je pense que personne ne prend le risque de faire en sorte qu'on se retrouve dans cette situation, véritablement, a priori, je pense. Avec les agents du FMI qui viennent en France, ça paraît assez peu concevable.
Bon, allez, on termine sur
cette note positive. Le Royaume-Uni, peut-être, est passé pas loin, effectivement. Il y a environ un an et demi de voir les...
Et ça vous a pas échappé que leur endettement n'était pas au niveau du nôtre.
Oui, non, absolument. C'est
vrai. Bien, Pascal, vous réagirez tout à l'heure, parce qu'on va reparler de tout ça, évidemment. On se retrouve, messieurs, avec vous, avec Pascal, avec Léonidas, dans un instant, 19h15. Les experts reviennent.
Restez avec nous, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti. Deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Alors, on croise les doigts, on brûle un cierge, tout ce que vous voulez. L'Europe spatiale qui croise les doigts, parce que si tout va bien, dans 2 heures, aux alentours de 21h, Ariane 6 va s'envoler pour son tout premier vol. On va retrouver Jean-Baptiste Huette qui est sur place dans un instant à Kourou. Et puis, on va parler de tout ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart.
Beaucoup d'autres choses aussi à voir avec nos experts. On va parler notamment de cette note de conjoncture de l'INSEE qui vient de sortir et qui nous dit que globalement en France, en tout cas jusqu'à l'annonce de la dissolution, eh bien les choses n'allaient pas si mal que ça. Alors est-ce que depuis ça a changé? Eh bien réponse dans un instant, et on vous parlera aussi du sommet de l'OTAN qui a démarré aujourd'hui à Washington avec l'ombre de Donald Trump qui plane évidemment. Et puis on va aussi beaucoup y parler d'Ukraine.
Oui, on parlera de l'opéra de Flamanville aussi, on a des bonnes nouvelles décidément, cette fois-ci les choses s'avancent bien. Qui sera avec nous? Léonidas Kalogiropoulos va revenir, Pascal Delima va revenir, on sera aussi avec Erwan Lenoan d'Altermagne et l'économiste atterré Henri Sterdignac. Voilà le programme.
Sacré casting.
On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
À tout de suite.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Good Evening Business, le journal.
Donc, si tout va bien, c'est dans 2 heures qu'Ariane 6 devrait décoller de Kourou pour son tout premier vol, l'aboutissement de 10 ans de travaux. Jean-Baptiste Huette est sur place pour BFM Business.
On est ici en Guyane, à Kourou, au Centre Spatial Guyanais, dans la salle Jupiter. C'est ici que toutes les opérations de contrôle du lanceur vont s'effectuer ce soir. Pour l'instant, tout va bien, tous les paramètres sont au vert, comme disent les professionnels. Il y a eu aussi un petit problème technique d'un capteur, mais ça a été vite résolu. Ce qu'on surveille avec beaucoup d'attention, c'est la météo. Cette période du juillet est en fait la pire pour envoyer des fusées. On a souvent en altitude des vents cisaillants qui peuvent venir modifier la trajectoire du lanceur, et puis ils peuvent se former des orages assez rapidement, donc tout ça est surveillé très attentivement. Il y avait une opération critique qui a été effectuée, c'est le remplissage des réservoirs. Il a fallu remplir les réservoirs de la fusée avec de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide. L'oxygène liquide, c'est à moins 150 degrés, l'hydrogène liquide, c'est à moins 250 degrés, donc ce sont des opérations qui sont critiques, extrêmement tendues. Tout s'est bien déroulé, tout s'est bien passé. La fusée attend maintenant sagement sur son pas de tir. À ce propos, justement, à propos de cette fusée, cette Ariane 6, c'est une version 2 booster. Elle est équipée de 2 propulseurs. Il faut savoir justement que dans quelques mois, il y aura un autre lancement qualificatif pour la version avec 4 propulseurs. On en reparlera. Avant, il faut déjà que celle-ci décolle. Et je peux vous dire sur place que les équipes du Centre National d'Études Spatiales, de l'Agence Spatiale Européenne, les industriels, Ariane Group, Ariane Espace, sont sur les dents. Pas d'autre mot, il faut que ça réussisse à tout prix. Un échec serait évidemment un signal catastrophique pour l'Europe de spatiale, l'Europe spatiale évidemment, et puis aussi une catastrophe industrielle. Mais tout va bien se passer, pour l'instant tout est au vert.
Et ben on croise les doigts, Jean-Baptiste Huette donc à Kourou pour BFM Business, on parle bien sûr de tout ça avec nos experts tout à l'heure, les enjeux de souveraineté autour de l'accès autonome à l'espace bien sûr, et puis si tout va bien, vous pourrez suivre ce lancement aux alentours de 21h en direct dans Tech & Co sur BFM Business, 19h04, pendant ce temps, grande question chez nous, comment va l'économie française? Là on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture qui nous dit que globalement, en tout cas, jusqu'à l'annonce de la dissolution, les choses n'allaient pas trop mal. Après, forcément, c'est une toute autre histoire. Thomas Asportas.
Oui, non, ils n'ont pas de boule de cristal à l'INSEE. En revanche, ils peuvent nous dire comment se comportait l'économie française jusqu'à l'annonce de la dissolution. Ils ont sondé, activé leur capteur de l'économie française au mois de mai et au mois de juin. Et ce qu'on voit, globalement, c'est que tous les indicateurs sont au vert. La croissance se maintient, l'inflation recule, les ménages regagnent du pouvoir d'achat et consomment davantage, et le chômage se stabilise. Donc la photo est plutôt bonne. Si on regarde la croissance plus précisément, l'INSEE tape sur 1,1% cette année. C'est exactement le même taux de croissance que l'an dernier, et même un petit peu plus que les 1% envisagés par Bercy dans le budget. L'INSEE prévoit notamment un troisième trimestre à 0,5% grâce au JO, qui apporterait à eux seuls 0,3 points de croissance. Ce serait ça, l'effet JO, 0,3 points de PIB, essentiellement grâce à la vente des billets et des droits audiovisuels. Bonne nouvelle sur la croissance, bonne nouvelle aussi sur l'inflation, qui repasserait sous les 2% d'ici à la fin de l'année. Donc on aurait des salaires qui augmenteraient plus que les prix, donc du pouvoir d'achat qui augmenterait de 1,4%, on n'a plus vu ça depuis un certain temps, et du coup une consommation qui repartirait, là aussi on n'a plus vu ça, de 1,3%. Et enfin, bonne nouvelle pour l'emploi qui se tient avec encore 185 000 créations d'emplois cette année. C'est beaucoup moins qu'en 2021-2022 post-Covid, mais c'est suffisant pour stabiliser le taux de chômage autour des 7,5%. Ouais. Aujourd'hui on est à 7,5, on serait à 7,6 en fin d'année.
Bon, donc ça c'était la photo juste avant la dissolution. Alors chiffre qu'a commenté Bruno Le Maire, qui a saisi l'occasion pour dire, ben voyez, tout ça, ça valide la politique qu'on mène depuis 7 ans finalement.
Ben oui, pour le ministre de l'économie, ces chiffres démontrent que sa politique est la bonne, la meilleure possible pour le pays, de la croissance, du pouvoir d'achat et de la création d'emplois. Et il implore donc les futurs responsables, quels qu'ils soient au gouvernement ou à l'Assemblée, de ne pas détruire cette politique. Je le cite, revenir en arrière sur la politique de l'offre et la remplacer par une politique de la demande serait une faute irrémédiable. Mais il est bien conscient aussi qu'il faudra faire des ouvertures à d'autres partis, trouver des compromis. Et Bruno Le Maire donne 2 exemples pour améliorer, c'est le mot qu'il emploie, améliorer la politique de l'offre vers plus de justice fiscale. 1. Continuer à augmenter la participation et l'actionnariat salarié pour intéresser davantage tout le monde, tous les salariés, à la performance de l'entreprise. Et 2. Réduire l'écart entre le salaire brut et le salaire net avec une refonte des allègements de charges et un lissage plus progressif.
Voilà le message de Bruno Le Maire. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, les discussions continuent du côté du nouveau Front Populaire pour désigner son éventuel candidat pour Matignon, pour remplacer Gabriel Attal, le premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit, lui, tout à l'heure, prêt à assumer la fonction, à condition, dit-il, que cela se fasse dans le dialogue. Le nouveau Front populaire qui met en garde solennellement, je cite Emmanuel Macron, contre le maintien prolongé, dit-il, de Gabriel Attal à Matignon. 19h07, c'est le grand rendez-vous international des prochaines heures, le sommet de l'OTAN qui débute à Washington. On va beaucoup y parler de l'Ukraine avec une question de taille. Que restera-t-il de l'aide à l'Ukraine si Trump repasse à l'automne? L'Amérique, plus largement, sera-t-elle aussi atlantiste? Alexandra Paget.
40 milliards de dollars, c'est le montant minimum de l'enveloppe que le précédent secrétaire général de l'OTAN a proposé aux États membres de consacrer au soutien de l'Ukraine chaque année. Une déclaration en ce sens est attendue à Washington, mais Kiev risque de ne recevoir qu'une garantie pour 2025. Pour les années suivantes, rien n'est moins sûr. Le prochain rassemblement de l'Alliance se tiendra aux Pays-Bas en juin l'année prochaine, après l'élection présidentielle américaine de novembre. Et celle-ci pourrait être remportée par Donald Trump, qui entretient le flou sur la continuité du soutien américain à l'Ukraine et même sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN. Longtemps premier contributeur direct de l'Alliance, il participe aujourd'hui seulement à hauteur de 16,2% au budget commun, c'est-à-dire autant que l'Allemagne. Mais le candidat républicain à la Maison-Blanche n'en démord pas et évoque régulièrement une sortie véritable ou non de l'OTAN et donc la fin du parapluie américain, notamment pour les pays les plus vulnérables de l'Est, dont l'Ukraine.
Alexandra Pageur parlera bien sûr de ce sommet de l'OTAN avec nos experts aux alentours de 19h45 sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, gros plan social en vue chez Dyson, spécialiste britannique de l'électroménager, bien sûr. Il annonce ce soir qu'il pourrait licencier 1 millier de personnes au Royaume-Uni sur 3500 basées là-bas. Le groupe se restructure depuis des années pour répondre à la demande qui est de plus en plus marquée du côté de l'Asie. D'ailleurs, on se souvient qu'en 2019, Dyson avait carrément déménagé son siège social de Londres à Singapour. Et puis, on revient en France. La décision était attendue. Finalement, oui, on verra des taxis volants au-dessus de Paris cet été pendant les JO. Ça va démarrer doucement, mais comme on dit dans ce genre de situation, apparemment, il y a un marché sur le long terme. François-Xavier Roux nous raconte ça.
Les taxis volants, un marché qui pourrait peser 32 milliards d'euros dans une dizaine d'années. À ce moment-là, 40 à 60 000 de ces engins pourraient voler au-dessus de nos têtes dans une centaine de métropoles. Pour les constructeurs, une révolution comparable au développement de l'automobile des années 20. Et les investissements ne cessent de se multiplier. La semaine dernière encore, c'est Stellantis qui a investi 55 millions de dollars dans Archer Aviation, entreprise californienne qui a pour ambition de construire 650 taxis volants chaque année dès 2025. Très avancée sur cette technologie, la Chine avait réalisé, elle, dès le début de l'année, le premier vol interurbain au monde grâce à la start-up Autoflight. Un trajet en 20 minutes à peine entre Shenzhen et Zhuhai dans la région de Hong Kong, contre plus de 3 heures en voiture. La promesse de ces entreprises, donc, rendre du temps aux usagers grâce à une vie sans bouchons, en investissant massivement les derniers kilomètres en ville. L'expérimentation parisienne, portée par l'entreprise allemande Volocopter en partenariat avec Aéroports de Paris, devrait, elle, permettre de rallier le Bourget au cœur de Paris grâce à une station flottante installée au niveau du quai d'Austerlitz en moins de 20 minutes.
Bon, vous inquiétez pas si vous les entendez passer cet été au-dessus de vos têtes à Paris, bien sûr. Les taxis volants arrivent dès cet été pendant les Jeux Olympiques. 19h11, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Ça s'est mal passé ce soir pour le CAC 40 qui perd 1,56%, 7508 points à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
On reste loin les 8000 points désormais là.
En effet.
Ça commence à être un petit peu difficile. À Wall Street, il n'y a pas vraiment de tendance, c'est assez calme apparemment.
Avec des records néanmoins qui sont là sur le S&P 500.
Même quand
sur
il
ne
se passe rien, il y a des records.
C'est ça. Oui, non, mais mettez-vous à la place des Américains. Ils regardent CNBC, ils regardent les médias financiers. Ils voient une gauche qui a pris une place importante dimanche en France. Ils voient qu'en Europe, c'est compliqué, les perspectives, BP qui revoit à la baisse ses perspectives, Verallia qui perd 18%, vous avez Dassault Systèmes qui perd 5% après ses warnings, bah forcément, ils rachètent quoi ? Du Nasdaq et du S&P 500. Donc vous avez Apple qui est sur un record historique, ça y est, désormais, la valorisation boursière dépasse les 3500 milliards de dollars, juste devant Microsoft qui est également sur un plus haut, devant Nvidia également. Le Dow Jones qui est un petit peu à la peine, rendez-vous compte, le S&P gagne 18% depuis le 1er janvier, le Nasdaq 25%, quand le CAC 40, bah, depuis la dissolution et retour casse départ part à 0% depuis le début de l'année. À noter que vous avez Jerome Powell qui a été auditionné aujourd'hui devant le Congrès américain et continue de dire on va baisser les taux, vous inquiétez pas, mais on a besoin d'être un petit peu plus confiant dans les données, notamment sur l'emploi, sur l'inflation. Et à ce titre, vous aurez des chiffres d'inflation jeudi aux États-Unis. Donc ça, c'est particulièrement attendu. Néanmoins, le marché plaide toujours et attend toujours à plus de 70% une baisse de taux dès le mois de septembre, hein, de 25 points de base, parce qu'ensuite, vous avez les présidentielles aux États-Unis. Hein, c'est début novembre, hein, ça va très vite arriver. Pour l'instant, le marché ne regarde pas trop ces élections américaines. Mais mine de rien, ça va arriver très vite. En attendant, ça se passe très bien à Wall Street, avec donc un Dow Jones qui prend 0,3%. 0,3% également de progression pour le S&P, qui est sur un plus haut à la porte des 6600 points, quand le Nasdaq est également sur un record historique à 18 434.
Même quand il ne se passe rien, il y a des records à Wall Street. C'est à toute la force du marché américain. Merci Étienne. Étienne Brac avec nous ce soir sur BFM Business, comme tous les soirs évidemment, 19h13. Nous revenons dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. On a beaucoup de choses. Ariane 6, on brûle un cierge a priori, lancement à 21h. Vous suivrez ça en direct sur BFM Business. L'INSEE qui nous dit que jusqu'au 9 juin, en tout cas, ça allait bien. Les agences de notation, ça y est, qui commencent à dégainer contre la France. Et puis, des bonnes nouvelles du côté de Le Père de Flamanville. Et puis, le sommet de l'OTAN, Donald Trump n'y est pas à Washington, mais tout le monde pense très très fort à lui, bien sûr. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, les experts sont là, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov avec nous jusqu'à 20h. Puis nos experts qui sont là, Pascal de Lima est revenu. Rebonsoir Pascal, chef économiste chez CGI Business Consulting. Léonidas Kalogiropoulos est revenu aussi, évidemment.
Bonsoir.
Rebonsoir. PDG de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Henri Stardignac est avec nous. Henri, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Et Erwan Lenoir est avec nous. Erwan, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant aux stratégies au cabinet Altermann. Alors on brûle un cierge, on le disait, l'Europe spatiale brûle un cierge,
eh oui.
Parce que si tout va bien, dans un petit peu moins de 2 heures, Ariane 6 va décoller de Kourou en Guyane pour son vol inaugural. Ça fait un an que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace. Ben mine de rien, c'est beaucoup. Hein.
Alors oui, c'est beaucoup, surtout que nous sommes à une époque où à la fois les Américains et les Chinois, eux, accélèrent, et que l'accès à l'espace est quand même de plus en plus, au-delà des enjeux commerciaux, une question de souveraineté. Léonidas.
Une question de souveraineté, un point d'équilibre dans les échanges géostratégiques, enfin dans le rôle géostratégique des pays, des continents, et c'est effectivement essentiel. Mais certes, on a un an d'absence, mais on n'est pas en retard. Enfin, Ariane 6 est à la pointe.
Ah bah si, ça fait 10 ans qu'on attend qu'Ariane 6
oui,
sorte des fourneaux.
Elle est très performante, cette fusée. Elle est c'est une fusée d'avenir. Elle a un carnet de commandes qui est absolument plein.
Ouais.
Elle va transporter effectivement différents satellites. Elle a un satellite un lanceur de réserve pour le cas où il y aurait un pépin.
Oui.
Aujourd'hui, eh bien, dans 48 heures, on est capable de d'en tirer les leçons et de la tirer à nouveau. Enfin, on n'est pas à la traîne, c'est ce que je veux dire. On est dans la course. Voilà, une course, c'est des moments d'accélération, des moments où on est un peu moins. Mais en revanche, je trouve que ça donne une très très belle image de nos performances. Et à ce moment particulier où la France doute d'elle-même, je pense que c'est très important.
Ça fait du bien.
Non seulement ça fait du bien, mais je trouve que ça devrait être la pointe de l'actualité.
Mais voyez,
tous les journaux, notre journal ouvre
ce
sur cette actualité.
Sur le sujet.
Ça, c'est vraiment la France.
Je vois Henri Stardignac qui sourit. Non, enfin, quand même, c'est une bonne nouvelle, effectivement.
Eh oui, c'est ce que nous avons dit
avant d'entrer,
nous étions d'accord là-dessus, que c'est une belle réussite française et une belle réussite de l'Europe aussi, et que ça devrait être un modèle pour nos industries en France et en Europe, qu'on est capable d'être à la pointe, effectivement, du progrès technique.
Oui, parce que en effet, en termes de progrès technique, donc on a à la fois une fusée qui est conçue pour répondre aux nouveaux besoins du marché spatial, mais surtout avec des coûts de production qui sont largement réduits. Erwan.
Mais il faut dire aussi qu'elle vient réintroduire un marché, vient réintroduire la concurrence dans un marché où désormais il y en a plus qu'il y en avait par le passé.
Hein, oui.
Les Il y a non seulement les différents pays qui lancent, puis maintenant tout le monde connaît les lanceurs privés également. Donc ça vient, il y a une à cet égard non seulement du progrès technique, du progrès technologique, le progrès en termes d'efficience et d'efficacité de production, qui montre effectivement, je suis d'accord avec les deux interlocuteurs précédents, que l'Europe peut rester à la pointe de la technologie, peut rester dans la compétition mondiale, peut venir l'entretenir. Et moi je regarde ça avec, je suis pas un spécialiste de ce sujet-là, mais je regarde ça avec à la fois de l'admiration et quelque chose que je trouve assez fascinant, qu'on a un projet sur lequel on travaille pendant des années,
oui,
et que jusqu'au dernier moment, en dépit de l'immense technologie qui est mise, l'immense savoir, c'est quand même les meilleurs cerveaux qui travaillent sur ce projet, il y a toujours ce doute, ce risque de savoir si ça va bien marcher, si on va être capable de le lancer comme il le faut. Il y a une part d'aléa qui à la fois fait rêver et rend...
C'est un énorme suspense, oui, c'est vrai.
On précise que si ça ne marche pas ce soir, l'échec est possible. Bon, le vol inaugural d'Ariane 5 en 1996, ça ne marche pas. Et après, c'est deux échecs sur 117 tirs, voilà, statistiquement. Donc, il ne faut pas t'arrêter non plus à ce qui va se passer ce soir, forcément, Pascal.
Non, mais si vous voulez, on vit une période fantastique aujourd'hui, qui est la combinaison de grandes innovations disruptives avec un enjeu de pouvoir et de leadership sur les technologies. Ça, c'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier qui est celui de la maîtrise des énergies de façon globale. Et puis, bien évidemment, le spatial, l'industrie spatiale. Pour moi, ces trois aspects-là sont tout à fait interdépendants. Et il ne faut pas oublier que le spatial, c'est énormément, évidemment, de retombées économiques, comme ça a été dit, en termes d'emploi, en termes de cas d'usage à développer pour toutes les industries, en termes de contrôle des populations, de ciblage des innovations sur les terres, oui, agricoles, sur un paquet de domaines, évidemment, dans les télécommunications, et qu'on ne peut surtout pas perdre, évidemment, cette bataille. C'est tout à fait évident.
Alors, surtout que les activités militaires et les activités de sécurité, de manière générale, dépendent beaucoup, elles se nourrissent beaucoup, justement, des informations qui sont fournies par les satellites. On peut guider un missile depuis l'espace, et il faut rappeler que depuis la fin brutale du partenariat avec la Russie, on n'avait plus d'accès indépendant à l'espace. Et là, Ariane 6 permet de retrouver
cette indépendance. Oui, on est en train de retrouver cette souveraineté. Et puis, je trouve ça très intéressant aussi que dans cette compétition, on est aussi en train de lancer notre premier client pour Ariane 6 qui va être Amazon. Donc, tout ça sont des interdépendances. On est totalement présent sur ces marchés.
Oui, on est sur une compétition, et on le rappelait avec Frédéric Simotel, on n'est pas tous seuls. Il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Indiens quand même.
Oui, on y est à la pointe de la technologie, et pardon de le dire parce que je le ressens vraiment comme ça, et à la pointe de la fierté de ce que notre pays est capable de faire de mieux.
Cocorico, vous avez raison.
Oui, ce que l'Europe est capable de faire. Mais c'est une coopération européenne absolument.
Mais je suis tellement heureux de vous entendre, Henri Sardignac, de dire que la France réussit à travers l'Europe.
Il y a un petit bout allemand, il y a un petit bout suisse.
C'est vrai. Mais vous avez totalement raison.
Il y a un
raison.
Gros bout français. Oui. Et tout ça, c'est
la réussite.
C'est une réussite collective. Ça s'assemble par bateau.
Absolument.
C'est transporté en France, en Guyane, et puis ça vole.
Non, mais
donc c'est
réussite,
quand même une grande réussite européenne.
C'est une réussite aussi européenne et nationale, et comme quoi les deux sont interdépendants.
Et en plus, on va peut-être en récupérer un petit bout. Enfin, c'est le but ce soir de récupérer un petit bout, l'étage supérieur qu'on devrait récupérer. Ouais. On croise les doigts. Bon, il y a un certain consensus, on est très heureux. Je ne sais pas si la suite va nous amener le même résultat.
Non. Alors, ça n'a pas traîné, à peine les élections passées. Ça y est, les agences de notation recommencent déjà à nous mettre la pression. Il y a eu Standard & Poor's hier. Et ce matin, c'est Moody's qui a explicitement mis en garde contre l'abrogation de la réforme des retraites.
Qui ne veut pas d'abrogation de la réforme des retraites et qui dit qu'il ne faut pas mollir sur les économies à l'instar de ce qu'était un petit peu le ton général. Moi, ce qui nous inquiétait, on en a parlé aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas habitué à voir les agences de notation réagir comme ça à chaud à des faits politiques. Et les messages se multiplient depuis quelques semaines, comme si désormais, je sais pas, Erwan, elle nous avait dans le nez, pardon de le dire comme ça, ces agences.
Je crois pas qu'elle nous ait dans le nez, je crois pas qu'elle nous dise il faut faire des réformes, elle dit juste si vous les faites pas, on s'occupera. Non mais, les agences sont pas là pour nous dire ce qu'on doit faire, si vous allez dans ce sens-là, on vous sanctionnera parce que ça ne répond pas à nos critères, c'est pas crédible. Elles ont absolument raison. Les politiques aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la presse internationale pour voir que l'ensemble du monde est en train de l'ensemble du monde des investisseurs regarde la France pour dire qu'est-ce qui va se passer. Le Financial Times ce matin, c'était la une et l'édito c'était la France et la Grande-Bretagne se sont inversés, c'est-à-dire le pays pro-business est devenu le pays qui suscite des incertitudes immenses. Et le pays qui avait plein de problèmes est devenu le pays pro-business en ayant l'un et l'autre de gouvernements censés de gauche. En tout cas, il y a d'une extrême gauche d'un côté et d'une gauche moderne de l'autre. Je vais deviner laquelle est laquelle. Donc, on a une inversion de la place de la France en Europe.
Enfin, c'est un peu tôt pour le dire. Les élections en Bretagne ont eu lieu il y a 24 heures.
Non, parce qu'il y a une immense incertitude. Il y a une immense incertitude. On ne sait pas qui va gouverner. Ça suscite de l'incertitude et on ne sait pas dans quel sens ça ira. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que la parenthèse réformatrice, certes imparfaite, mais réformatrice qui était menée par le président Macron, est finie. Est fini, que ce soit l'extrême droite qui gouverne ou la gauche qui gouverne, les politiques pro-réforme, c'est fini. Donc, au mieux, on va être dans la stabilisation de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Au mieux. Donc, pour les marchés, pour l'économie, c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Mais pardonnez-moi.
Allez-y.
La question n'est pas uniquement de jauger et de juger de ce que sera la politique de demain. La question est de savoir où est le pays. Le pays est au bord d'un précipice financier. C'est une réalité. Et donc,
Il y était déjà avant la dissolution.
Non, mais je ne dis pas qu'il n'y était pas déjà, mais dès lors qu'il y était,
oui,
et que l'on avait des responsables gouvernementaux qui disaient on va tenir le cap du redressement pour ne pas tomber dans le précipice et retourner sur la terre ferme, eh bien, les agences de notation ont accepté cette histoire-là et ont pris ces arguments comme étant suffisamment sérieux pour ne pas dégrader fortement la note française. Et donc, finalement, ils sont en train de dire attention, n'oubliez pas que vous êtes sur la ligne de crête et que si vous vous écartez de la volonté de restaurer vos comptes, vous êtes au bord du précipice.
Non, mais attendez,
et je pense que ça, c'est un message qui s'adresse à tous les responsables, quels que soient leurs
intérêts. Que les agences de notation, vous avez raison, qu'elles disent attention, si la trajectoire budgétaire de la France l'éloigne de la rectification de ses finances publiques, voilà, et de son assainissement, évidemment, on va dégrader la note. Mais qu'ils fassent un focus sur l'abrogation de la réforme des retraites, quand on voit que le COR nous annonce que le système repasse dans le rouge dès cette année avec un trou de quasiment 6 milliards, de toute façon, on sait qu'on va devoir réformer à nouveau.
Henri, vous dites s'inquiète alors que les marchés ne s'inquiètent pas.
Pour l'instant.
Le spread n'a pratiquement pas bougé.
Ah bah, il a bougé après l'annonce de la dissolution.
On est passé de 50 points de base à 70, c'est quand même relativement faible. D'autre part, Moody's s'inquiète maintenant, mais la dégradation des finances publiques de la France, c'est pas aujourd'hui. C'est le gouvernement, c'est Macron. C'est Macron qui a baissé de 76 milliards les recettes publiques, qui a baissé fortement les impôts et c'est lui le responsable. Si on a deux points de déficit de trop, c'est les deux points correspondant aux mesures que le gouvernement Macron a prises.
On les a baissés. Ça n'empêche pas que la France soit toujours, malgré cette baisse, le pays qui taxe le plus sa population.
Et donc, mais Macron, dans son programme, disait qu'il allait réussir à baisser les dépenses publiques de façon correspondante à ses baisses d'impôts, ce qu'il n'a pas réussi à faire. La responsabilité quand même de la situation, c'est Macron et c'est pas l'éventuel futur gouvernement qu'on
peut. Pardonnez-moi, Henri Sardinia, la responsable, ailleurs, c'est les Français, c'est la France entière. On est tous dans le même bateau.
Et par ailleurs, une situation où effectivement on a 40% des gens qui votent pour l'extrême droite parce qu'ils sont mécontents de la politique suivie, parce qu'ils ont l'impression que la politique suivie ne correspond pas à ce que veut le peuple. C'était de toute façon une situation périlleuse. Et la question maintenant, c'est que peut-on faire pour ramener ces 40% de Français dans des positions plus responsables. Et ce n'est pas Moody's qui va nous indiquer quoi faire.
Pascal, le taux de prélèvement en France est le plus élevé de la zone euro. On a en effet un niveau de dépenses publiques absolument historique. En face, une qualité de service public qui s'effondre et un mécontentement de la population. Comment on rectifie la trajectoire?
Alors ça, c'est un lourd sujet. Hein.
Votre programme, Pascal.
J'ai pris de concision.
C'est le râle de Sciences Po.
Il y a une question indiscutable sur la trajectoire des finances publiques, qui est la première partie. Et bien sûr, comment parvenir à une trajectoire qui soit soutenable aujourd'hui, tout en maintenant les services publics. Je tiens à préciser que le service public peut être aussi maintenu à travers les entreprises privées, et notamment à travers le service unique. universelle, l'accessibilité financière, la disponibilité géographique des services. C'est ce qu'on voit notamment dans le secteur bancaire. Donc je répondrai, c'est ma réponse, je répondrai, voilà, une crédibilité sur la question des finances publiques et de la trajectoire. Aujourd'hui, on peut quand même un peu l'espérer. On voit les prévisions de croissance économique augmentent. On sait que le rapport de la croissance économique au taux d'intérêt réel est encore tendu, mais bon, il n'y a pas non plus désespoir total là-dessus. Et on ne peut pas nous comparer à la Grèce, c'est mon avis. Ouais. Et puis par ailleurs, évidemment, bah, les services publics, on les connaît. Hein. On sait très très bien que c'est un retour sur investissement important à long terme et qu'il faut absolument être totalement régalien là-dessus pour assurer justement la croissance de demain. Donc ça, c'est absolument vrai. Et compter aussi sur les entreprises privées, parce que la délégation de services publics me paraît aussi importante.
Erwan, on a une minute avant la pause, le message subliminal, comme vous disiez, enfin, c'est qui n'avance pas recul. On est, semble-t-il, parti pour des mois de paralysie pendant lesquels on ne va pas faire les réformes qui s'imposent, on ne va pas faire passer les lois qui s'imposent, qui vont permettre de faire des économies, finalement.
Exactement. Et la France était aujourd'hui en Europe, jusqu'à la dissolution, à peu près le pôle principal de stabilité. Le pôle principal de stabilité, les Allemands sont fragiles.
Quand on y pense.
Le Royaume-Uni, alors ils viennent de changer, mais ils sont pas dans l'Union européenne. Les autres pays sont.
Attendez, pôle de stabilité politique.
Politique.
Ah oui, voilà, politique.
Et avec une santé économique qui n'était pas non plus mauvaise, sans être exceptionnelle. Et là, on se retrouve dans une situation où elle devient le principal facteur d'incertitude dans l'Union européenne. Et alors que par ailleurs vous avez la guerre en Ukraine, toutes les transitions que vous connaissez, l'élection américaine qui arrive, on a un pôle de stabilité politique, en tout cas qui rassurait plutôt les investisseurs, qui aujourd'hui est devenu un pôle d'inquiétude, et vous avez plein de clients internationaux qui gèlent les budgets aujourd'hui.
Il faut rappeler aussi que le déficit extérieur de la France sera sans doute nul ou pratiquement nul cette année, ce qui veut dire que le déficit public correspond.
Le
déficit public correspond à l'épargne intérieure, l'épargne des ménages français. Le déficit public français est à peu près égal à l'épargne des ménages français. Et donc, on peut pas, compte tenu du fait qu'effectivement, on a dans le monde et en France des tas de gens qui épargnent trop et qui veulent absolument prêter, on est obligé d'avoir des pays ou des entreprises qui soient déficitaires et qui ont des dettes relativement importantes. Donc, ce que dit Moody's, l'idée qu'effectivement, on pourrait se donner comme objectif de réduire très rapidement, avoir un programme de réduction très rapide du déficit public, macroéconomiquement, ça ne tient pas.
En tout cas, ils l'ont dit très rapidement, ces agences de notation. Standard & Poor's hier, à peine 24 heures après les résultats, ils maudissent.
Oui, mais oui.
19h30 sur BFM Business. Oui, c'est de la concurrence. Oui.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 19h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité, donc décollage, enfin, on espère en tout cas,
on espère,
21h d'Ariane 6 depuis Kourou pour son tout premier vol, ça fait un an, vous savez que l'Europe est privée d'accès autonome à l'espace, si tout va bien, donc vous suivrez ça à 21h en direct sur BFM Business. En France, l'INSEE nous a dit tout à l'heure qu'en tout cas avant la dissolution, les indicateurs étaient bons pour l'économie française, à l'époque on était parti pour faire 1,1% de croissance cette année, et pour voir le chômage se stabiliser à 7,6%, ça c'était la photo au début du mois de juin. On va en reparler bien sûr dans un instant. Moody's donc qui a adressé ce message sans ambiguïté ce matin au gouvernement en futur, quel qu'il soit, ne pas abroger la réforme des retraites et ne pas baisser la garde sur les recherches d'économie. Le grand rendez-vous international des prochaines heures, c'est le sommet de l'OTAN à Washington. On va beaucoup parler de l'aide à l'Ukraine avec une question de taille. Qu'en restera-t-il si Trump est élu cet automne? L'Amérique, plus largement, sera-t-elle aussi atlantiste? Ça aussi, on va en parler dans un instant. Et puis côté entreprise, gros plan social en vue chez Dyson, spécialiste britannique de l'électroménager, qui pourrait licencier jusqu'à 1 000 000 de personnes au Royaume-Uni. Le groupe se restructure depuis des années pour répondre à la demande qui est plus déplacée du côté de l'Asie. D'ailleurs, il y a quelques années, Dyson avait déplacé son siège social de Londres à Singapour. 19h32, on revient bien sûr dans un instant.
Hein. Et oui, on est ensemble en direct pour débattre jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, casting de choc ce soir, comme tous les soirs, vous me direz. Dans les experts, Pascal Delima, Henri Sterdignac, Léonidas Kalogéropoulos et Erwan Lenoane sont avec nous, et donc avec vous, Guillaume Paul, évidemment. Rebonsoir. Bon, alors, pendant ce temps, grande question, comment va l'économie française? Donc là, on a l'INSEE qui vient de publier sa dernière note de conjoncture. Elle nous dit globalement que jusqu'à l'annonce de la dissolution, eh bien, ça allait pas trop mal. Pour la suite, par contre, c'est un peu plus flou.
Oui, l'INSEE nous dit, alors, photo juste avant la dissolution, l'INSEE nous dit on était parti pour faire 1,1% de croissance cette année, on était parti pour voir l'inflation redescendre à 2% en décembre, on était censé voir le chômage reculer, mais un tout petit peu finalement à 7,6%. C'était pas mal comme tableau. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est une question sans réponse. Qu'est-ce qui restera de tout ça à la fin de l'année? Je me rappelle du patron de la CPME qui disait la semaine dernière, avec toute cette histoire, on va perdre au moins un trimestre de croissance. Vous y croyez ça, Erwan, finalement? Question sans réponse, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui va rester tout ça à la fin de l'année?
Je suis pas prévisionniste, j'ai pas de boule de cristal. Qui est certain, c'est que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une immense incertitude sur quel sera le gouvernement et deux, quelle sera sa politique. Globalement, il y a quand même un effet de gel d'un certain nombre de projets d'investissement, de projets d'embauche, de projets entrepreneuriaux tout simplement. À toutes choses égales par ailleurs. Demain, si en plus on a un gouvernement dont le projet c'est de revenir sur la réforme des retraites, d'augmenter les impôts, d'augmenter le SMIC à des sommes astronomiques tout en distribuant par ailleurs des subventions dans un système absolument ubuesque, ça ne peut pas avoir des effets positifs sur l'économie à moyen et long terme.
Vous voyez bien que c'est pas réaliste, on le sait, on voit bien.
Oui, donc l'immense incertitude. Voilà. Donc dans l'incertitude, ça a un effet de gelée.
On bloque, non mais c'est vrai.
Enfin, Léonidas.
Des mandants étrangers qui travaillent avec la France, partie des investisseurs, des gens qui, dans les annonces de Choose France, c'était il y a un mois et demi, tous ces investisseurs qui avaient de la visibilité se disent j'attends. Enfin, ils sont en stand-by. Et ce stand-by, il dure maintenant depuis un mois. Et puis il y a l'attente de savoir ce qui va effectivement être annoncé par le prochain gouvernement avant de réenclencher. Mais pour le moment, les trucs sont gelés.
Oui. Alors, enfin, il ne faudrait pas non plus laisser entendre qu'avant la dissolution, tout allait bien.
Non.
Je vous rappelle que sur un an,
non, mais ça n'allait pas bien. Mais...
Comment ?
Non, mais c'est pire maintenant.
Alors, attendez. On rappelle les chiffres d'il y a 3 semaines quand même. Hausse du déficit commercial sur une année de 86 milliards d'euros. On a une chute de la production industrielle de 2%. Le déficit public en mai, on était à 180 milliards d'euros. Donc, on ne peut pas dire que l'économie française se portait très bien avant la dissolution. Ce n'est pas vrai.
Mais c'est aussi d'autant plus la raison pour laquelle il faut y faire très attention.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Parce que là, on a l'impression de découvrir...
Médiocre. Mais je crois que les prévisions...
Médiocre. 0,9% l'an glissement, donc c'est...
Oui.
C'est pas génial. On avait une légère remontée du chômage. On remontait à 7,6% alors qu'on était à 7% en début d'année, donc en début de l'année dernière.
Oui.
Donc c'était pas glorieux.
Je n'avais pas totalement entendu vous en réjouir quand on était à 7%. Enfin,
voilà. On reste dans une situation où la productivité du travail augmente relativement peu. Donc on était bon. Voilà. Donc Maussade. On était dans une situation maussade. Maintenant que Macron a pris des risques exagérés en dissolvant l'Assemblée nationale.
Oui.
Nous, tout le monde en est d'accord. Maintenant, ça fait partie du jeu économique que de temps en temps, on a des chocs de cette nature. Voilà.
Oui, alors, le problème, c'est que
les classes dirigeantes n'avaient pas conscience du fait que il y avait un très grand mécontentement dans les classes populaires et que... Ce mécontentement, d'une façon ou d'une autre, il faut y répondre.
Tiens, puisque vous parliez du programme du nouveau Front Populaire, je voudrais qu'on écoute Fabien Roussel ce matin qui répétait oui, nos mesures sont financées notamment par un super ISF et des mesures qui, oui, sont censées taxer les plus riches, mais qui ne seraient pas confiscatoires finalement pour une grande majorité des Français, des contribuables. Écoutez Fabien Roussel ce matin.
Elles sont en partie financées par une contribution prise sur et les plus riches et les super profits et jamais Mais précisez les choses. Oui, oui. Enfin, à moins que vous soyez vous-même détenteur d'un grand patrimoine et que vous avez peur de payer l'ISF, vous êtes concerné. Mais sinon, 92% des Français ne sont pas concernés. Donc, faut arrêter de faire peur avec ça. L'impôt, c'est pas sale. Quand l'impôt permet de financer des services publics, c'est utile. Or aujourd'hui, ce sont les plus riches. Ce sont les détenteurs de capitaux qui ont été exonérés d'une grande partie de leurs impôts pour permettre de les enrichir. Par contre, les Français, eux, ils ont été fortement taxés. Eh bien, nous voulons faire l'inverse, que les gros payent gros et que les petits payent petits.
L'impôt, c'est pas sale. Non, ça, c'est sûr. Et on le sait en France, puisqu'on est déjà à 48% d'impôts et de prélèvements obligatoires par rapport à notre pays.
C'est extraordinaire, d'ailleurs, parce que vous donniez tout à l'heure la quadrature du cercle. Le pays qui taxe le plus, le pays qui dépense l'argent public le plus en Europe et d'ailleurs plus largement dans les pays de l'OCDE,
oui.
Où les services publics vont pas bien et où le mécontentement est généralisé. C'est quand même, c'est extraordinaire. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire plus. Il faut absolument, alors qu'on est au maximum, aller au-delà sur la taxation, au-delà sur la dépense publique, et ça devrait amener le paradis dans le pays. C'est quand même une certaine tournure d'esprit particulière qui consiste à persévérer constamment dans l'erreur.
Ce que nous vend l'extrême gauche, Pascal, c'est un plan de relance keynésienne, ce qui est quand même aux antipodes de ce que font les autres pays en Europe et aux antipodes des besoins de la France.
Si vous voulez, besoin de la France aujourd'hui, nous sommes dans une, je reste toujours sur mon même fil conducteur, dans une phase de transition économique et numérique. Donc, les entreprises actuellement se transforment. Elles sont en train d'enrichir les métiers, elles sont en train d'apporter de nouveaux métiers. Il y a toute une économie d'innovation disruptive qui est en train de se créer.
Oui.
Donc ce que je veux dire, et je réponds directement à votre question, c'est qu'aujourd'hui, ce que demandent les entreprises, c'est de la stabilité pour pouvoir avoir des plans stratégiques, une vision de long terme, pouvoir investir, de la visibilité. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a de l'instabilité politique. Cette instabilité, d'ailleurs l'abrogation potentielle des retraites, etc., concourt à cela, de l'instabilité politique, puisqu'on change une mesure systématiquement.
Le SMIC aussi, dont on n'a pas parlé.
Le SMIC aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'instabilité politique. Et l'instabilité politique, ça joue évidemment sur la crédibilité de la gouvernance, du gouvernement, si vous voulez.
Oui.
Ça joue sur les anticipations des entreprises. Ça joue sur de potentiels mouvements sociaux. Ça joue sur les réformes structurelles qu'on va pas oser faire parce que, on voit que systématiquement, ça change et que cette instabilité va s'auto-alimenter. Puisque j'entends parler aussi d'une nouvelle dissolution pas très loin, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, tout cela concourt à l'instabilité. Et c'est exactement le contraire qu'on veut dans une politique d'offre. On a une politique d'offre depuis un certain nombre de décennies, depuis les années 80, qui va probablement se terminer petit à petit, mais il faut aller jusqu'au bout de cette transformation si on veut arriver à concurrencer loyalement, évidemment, les États-Unis, la Chine, etc.
Henri, est-ce que vous êtes d'accord pour considérer au moins qu'il faut sortir de cette période d'instabilité, quelle que soit la couleur du futur gouvernement, de la future majorité, finalement? Il faut sortir. Oui, on est d'accord là-dessus.
Vous pouvez faire ce discours tout à fait sympathique.
C'est pas un discours, c'est pas sympathique non plus. C'est
ce que sur les entreprises, n'empêche que les entreprises ne peuvent pas laisser de côté une grande partie de la population.
Oui, mais c'est pas les entreprises qu'ils ont.
On va avoir des start-up, des entreprises innovantes, et le reste nous indiffère.
On est d'accord.
On nous indiffère complètement. Et ce qu'on a vu.
J'ai pas compris ce que vous dites.
Ce qu'on a vu là, c'est qu'une grande partie de la population estime que ce que font les entreprises et les classes dirigeantes ne correspond pas à leurs besoins, aussi bien en termes de salaire que de services publics, que de niveau de vie. Et contrairement à ce que vous dites, 1600 euros, le SMIC, c'est pas un salaire fabuleux.
J'ai
pas dit que c'était un salaire fabuleux. Je pense que ce qui est faux dans ce que vous dites, c'est que personne, et mon voisin sera d'accord, aucune entreprise aujourd'hui n'ignore les problèmes sociaux de la France, n'ignore les problèmes politiques et n'ignore les difficultés d'un très grand nombre de Français. Et ces problèmes viennent non seulement d'un niveau de vie qui est parfois difficile, mais surtout d'absence de perspective. Les Français, je ne crois pas qu'ils reprochent aux entreprises aujourd'hui d'en profiter trop. Et ce dont ils souffrent, ce n'est pas que les entreprises en profitent. Ce dont les Français souffrent aujourd'hui, c'est d'un État qui est profondément inefficace. Le marché de l'emploi qui ne marche pas à cause des régulations. Le service scolaire qui est une catastrophe. Le service d'université qui est aussi une catastrophe. Le service public hospitalier qui ne marche pas. Les policiers qui sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas contents. Et comme le disait Léonidas à l'instant, alors qu'on a les impôts qui croissent, dépenses qui croissent. Le vrai problème, ce n'est pas les entreprises dans ce pays, c'est l'État.
Mais je voudrais quand même potentiellement que l'on arrive à travailler sur des points communs, parce qu'on a des points communs. En l'occurrence, je suis totalement d'accord avec ce que dit Erwan, nous voudrions que nos salariés soient mieux payés, parce qu'au-delà de la question de savoir s'ils sont mieux payés et de leur pouvoir d'achat, on veut réconcilier le pays entier avec le travail. Et pour que le travail soit une valeur partagée par tout le monde, il faut absolument que le travail paye mieux. Et s'il ne paye pas mieux, c'est à cause du différentiel entre le salaire net et le salaire
Les salariés n'ont pas besoin d'être réconciliés avec le travail. Les salariés, ils veulent travailler.
Non, mais attendez, d'abord, il n'y a pas de vie salariée. Non, mais attendez, ça c'est de la polémique stérile, Henri Sardinia. Ça n'a aucun intérêt, cette question. Je suis en train de vous dire que vous avez raison. Il faudrait que les salaires soient meilleurs. Et pour qu'ils soient meilleurs, il faudrait que les charges soient plus faibles, parce que notre modèle social ne repose malheureusement que sur les cotisations sur le travail. Il faut que l'on arrive à financer notre modèle social autrement que exclusivement sur le travail. Il y a peut-être là une piste sur la TVA sociale à laquelle
nous pourrions travailler. Cher Léonidas, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, il est question de cotisations sociales. Ces cotisations sociales financent des prestations qui font partie du salaire indirect des travailleurs. Donc, on ne peut pas remettre en cause les charges sans dire qu'en même temps, on remet en cause les allocations familiales, les prestations maladie, etc., etc. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la TVA sociale est un mythe erroné. Bon, c'est-à-dire que la TVA sociale est payée par les travailleurs de la même façon que les cotisations sociales. Ce n'est pas un point de discussion, c'est un point de théorie économique. Il n'y a aucune différence sur la théorie économique entre la TVA sociale et les cotisations sociales employeurs, dans la mesure où la TVA, comme vous savez, ne pèse pas sur l'investissement.
Alors, ne pèse que
sur le travail.
Technique important à rappeler, mais vous êtes d'accord, Henri, pour dire qu'on ne peut pas à la fois augmenter les impôts, dire aux entreprises que non, finalement, on ne supprimera pas les fameux impôts de production, et leur demander en même temps d'augmenter les salaires. Comment elles font, les entreprises ? Elles mettent la clé sous la porte ?
Il n'est pas question d'augmenter les salaires. Il est question d'augmenter certains salaires. Il est question de repenser l'organisation des entreprises, de se dire il y a un certain nombre d'emplois.
Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne pourront pas le faire, Henri, vous le savez très bien.
Il y a un certain nombre de ponctions de la finance complètement exorbitant, et c'est là...
Bon, dans le secteur public aussi.
Et donc vous allez... Partout. Effectivement, dans la fonction publique, on a des hauts fonctionnaires avec des salaires...
Pardonnez-moi, donc s'ils ont des salaires importants, c'est parce qu'il y a des gens qui jettent l'argent par les fenêtres en les payant de manière exagérée, sans raison.
Exactement. Regardez les communes. Regardez les
communes. Quel dommage qu'ils n'aient pas Henri Sardinia chez eux.
Consensuel sur Ariane 6, je ne veux pas dire.
Oui, on avait bien commencé. Bon, allez, l'autre sujet en avance dont on voulait parler ce soir, eh bien, c'est le sommet de l'OTAN qui a débuté aujourd'hui à Washington, donc sommet au cours duquel on va beaucoup parler forcément de l'aide à l'Ukraine, et puis l'ombre de Donald Trump, il faut le dire, va planer sur ces rencontres.
C'est vrai qu'il n'est pas là, mais tout le monde pense bien à lui, parce qu'en gros il y a deux questions: qu'est-ce qui restera de l'aide à l'Ukraine l'an prochain s'il repasse en novembre prochain, et au-delà de ça, est-ce que l'Amérique risque d'être moins atlantiste que par le passé? Si vous écoutez les déclarations de Donald Trump, la réponse serait oui. Après, c'est Donald Trump, donc tout ça est très très aléatoire finalement. Toujours, Erwan.
Oui, absolument. Mais d'abord, effectivement, l'élection de Donald Trump serait quand même pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, a priori. Bon, ensuite, je voudrais juste rappeler que les États-Unis, leur interventionnisme, c'est pas leur élan spontané en manière de politique internationale. Hein. Le président Obama était quelqu'un qui était hyper isolationniste. Ouais. Ça l'a pas empêché d'être acclamé dans le monde entier, alors qu'il n'y a rien fait. Mais c'est les États-Unis, c'est un peu leur, ils ont leur tropisme, c'est plus l'isolationnisme que aller agir à travers le monde et les gendarmes du monde. Trump élu, ça serait... Il y a deux hypothèses, et c'est soit c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il arrête l'aide, soit parce qu'il est capable un peu tout, il essaye de tordre le bras de la Russie. Je suis moins convaincu par la seconde option, d'autant qu'aujourd'hui, un autre élément à avoir à l'esprit, c'est que l'Union européenne est présidée par Orban, qui est en Chine, je crois, aujourd'hui, hier, et qui était à Moscou la semaine dernière.
Son petit tour d'horizon.
Donc il y a un alignement là potentiel qui n'est pas très favorable à l'Ukraine ni à la défense des valeurs ce que devraient être, selon moi, les valeurs européennes.
Bon, en tout cas, c'est la première sortie internationale du président Macron. Qu'est-ce qu'on attend d'Emmanuel Macron à Washington? Est-ce qu'on attend qu'il rassure les alliés?
On attend qu'il rassure et qu'il dise qu'il reste président. Ben oui.
Alors ça, il l'a tweeté, oui. Il l'a posté,
je veux dire, s'il y a quelque chose qui est important pour la France,
oui. C'est que... qu'il ne démissionne pas.
C'est que Macron reste président, qu'il ne démissionne pas et oui. Qu'il ne soit pas remplacé dans 6 mois par Madame Le Pen. Bon. Et c'est quand même ça, ça aussi... Un risque important.
Et l'avenir de l'OTAN dans tout ça.
Ben voilà. Oui. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est effectivement, il y a aussi un sujet sur l'OTAN, sur les contributions des pays à la dépense militaire par rapport au PIB, qui pose problème du côté des États-Unis aussi.
Alors, la règle, c'est 2%.
C'est 2%, mais les États-Unis.
Non, mais il y a même question de dire là-bas à Washington, on va essayer de pousser à 3%, effectivement. L'époque étant ce qu'elle est.
Oui. Alors, sachant que quasiment personne n'était à 2%, oui, donc là, on s'y met en marche forcée.
Même l'Allemagne était partie pour y aller.
Une amélioration récente, c'est pour ça qu'il s'est un petit peu calmé, je pense aussi.
La Pologne et les pays baltes commencent à y être.
Oui.
Les pays les plus menacés, eux, ils sont à 3% maintenant.
Puis il y a des nouveaux conflits différents aussi, donc il faut se coordonner sur une nouvelle forme de conflit, les cyberattaques, les conflits qu'on appelle hybrides, tout ça c'est un peu nouveau pour l'OTAN aussi.
Et il y a un problème européen qui est que cette histoire qu'un pays à tour de rôle préside l'Europe, c'est complètement nul quoi.
Bah oui, mais attendez, quand on est 27, on fait comment
Quand on est 27, on change le système on dit le président de... On supprime cette histoire de rotation tournante.
Et donc, qui préside ?
On se réunit à Bruxelles et la personne qui préside, c'est le président du Conseil européen permanent, de manière à éviter cette histoire où, effectivement, on a une Europe qui... une fois sur quatre est représenté soit par un tout petit pays sans influence, soit par un pays...
Le partage de la gouvernance...
C'est ça l'Europe.
C'est terrible les gouvernances.
Si on veut que l'Europe devienne un peu plus fédérale, ils vont modifier certaines choses.
La démocratie, c'est un truc terrifiant.
La démocratie. Et il y a un autre point auquel il faudrait réfléchir, c'est...
Oui.
Est-ce qu'on négocie ou pas un jour avec la Russie ou est-ce que...
Mais ça, on aura d'autres occasions d'en
parler. On en parlera hors plateau, Henri.
Oui. 3 minutes, c'est l'extra thème, comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur une trentaine de secondes. Oui, je sais, c'est court, mais la règle est impitoyable. Qui va commencer? Pascal, tiens.
Bon, c'est parti. Donc, sur l'impact économique des Jeux Olympiques, il y a pas mal de trucs qui sont sortis. J'ai une petite synthèse un peu pour m'amuser. Et on voit dans l'histoire, sur les derniers Jeux Olympiques, effectivement, des retombées sur le PIB assez mineures, autour de 0,1% du PIB. Donc finalement, c'est assez mineur, mais par contre, plutôt à l'équilibre, on va dire, au niveau des dépenses et des recettes pour les organisateurs. Mais voilà, il n'y a pas de quoi non plus...
Sauter au plafond.
L'INSEE a dit 0,3 points de croissance au troisième trimestre du JO.
Oui, estimé à 0,1, mais enfin,
on verra. Ça compensera les effets de
l'année. C'est bon pour la France. Henri, vous voulez poursuivre ?
Moi j'ai un coup de gueule, c'est contre Nicole Belloubet qui, bien que ministre en sursis, continue à vouloir absolument introduire des classes de niveau au collège, ce qui est une catastrophe d'après tous les professeurs, d'après les enseignants au collège. La France a besoin de repenser son système éducatif et les réformes récentes, que ce soit la Parcoursup qui détruit complètement la dernière année avant le bac et maintenant ces classes de niveau, ça va sans doute pas dans le bon sens.
Et voilà, le message est passé. Erwan.
Moi, c'est une inquiétude sur le rôle de la France dans l'Union européenne. Je pense que la dissolution et les résultats des élections introduisent, une incertitude sur le gouvernement, sur la politique européenne qu'il aura. Et par ailleurs, on a perdu beaucoup d'influence au Parlement européen. Nos députés sont très divisés. Au sein du groupe majoritaire PPE, la droite française pèse pour rien. Les députés européens, en nombre, sont dans les partis, dans les groupes qui ne sont pas majoritaires, donc qui ne pèsent pas sur la décision. Donc la France va perdre de l'influence au niveau européen.
Eh bien, c'est dit et c'était très clair. Léonidas.
Eh bien, j'aimerais rendre hommage à des socialistes Ah, j'aimerais rendre hommage.
Heureusement qu'on est assis.
Ah oui, alors là, je... extraordinaire socialiste que j'aimerais tellement avoir en France, ce sont les socialistes britanniques. Ah. C'est le Labour. Pas de progrès social sans croissance économique. L'État main dans la main avec les partenaires socio-économiques pour avancer dans le progrès collectif. De la fiscalité stable pour avoir de la visibilité et pour les agents économiques. Le désendettement et la sécurité, ça, ce sont les piliers du programme du Labour. Eh bien, j'aimerais qu'il y ait en été un grand programme de visite de la totalité de la gauche.
Henri Sterdyniak.
C'est une bonne idée. Erwan a rajouté, à juste titre, qu'une bonne partie de la droite devrait les visiter également.
Mais Henri Sterdyniak vous dira que les socialistes britanniques sont à droite.
Mais Henri Sterdyniak est invité également à aller en visite auprès du Labour britannique.
Ça sert à ça, les vacances à brainstormer.
N'est-ce pas? Bien écoutez, allons-y collectivement.
Voilà, ça servira. Merci messieurs, c'est fini pour ce soir. Pascal Delima, Henri Sterdyniak, Léonidas Kalogiropoulos et Erwan Lenoir. Merci messieurs, merci. À très vite avec grand plaisir pour Nouvelles Aventures. 19h54, c'est fini.
Oui, c'est passé beaucoup trop vite. La bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
On se retrouve bien sûr demain soir, 18h pour Nouvelles Aventures. Dans un instant, Tekken Co. Si tout va bien, on brûle un cierge. Un lancement d'Ariane 6 à 21h.
Bon, ça devrait bien se passer.
Oui, Ariane 5, ça n'est pas mal.
Et puis aller la France aussi.
Et puis aller la France accessoirement, ouais. Évidemment. Ouais, ouais. Oui. Bonne soirée.
À demain.
Il y a un match de foot.
Quelle demi-finale.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.